Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes bâti une jolie petite vie, inspecteur. Mmh. Vous devriez être fier.
Tu vas la fermer, espèce de connard.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment ça va les mecs?
Ça va et toi?
Ça va et toi?
Bah alors Guillaume, t'étais pas là la dernière fois?
Oui, j'ai une petite absence, j'avais un autre truc à faire.
Très bien. Aujourd'hui, aujourd'hui nous recevons Panayotis Pasco. Est-ce que tu vas bien?
Franchement, moyen.
Ouais, pas ouf.
Bah pandémie quoi. C'est dur de poser cette question.
Tout de suite, pourquoi pas.
Ouais, c'est vrai. Hein.
Ça va pas du tout avec la musique de fond.
Non, ouais, pas là.
Pandémie pousse les gens à la dépression.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Grave. Bah écoute, je faisais des blagues.
Ok.
Je pète le rythme dès le départ. Je faisais des blagues à la télé. Après, j'ai démissionné pour faire de la scène. Et j'ai toujours été un amoureux du cinéma. J'essaie de lier ça à l'émission. Sinon, on se dit qu'est-ce qu'il vient foutre là, le gars qui fait des blagues. Et du coup, dernièrement, j'ai fait un petit court-métrage.
Très bien. Et tu joues dans des films?
Oui, oui.
Ouais. Tu peux le dire.
Oui. Clin d'œil. Oui, de ouf. C'est arrivé deux fois.
Alors, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un film sorti en France le 31 janvier 1996, à savoir Seven. Film très important dans la carrière du réalisateur David Fincher, puisque quelque part, il s'agit presque de son premier. 3 ans auparavant, il faisait ses débuts chaotiques avec Alien 3, film qu'il renie depuis maintenant 29 ans, estimant qu'il n'a pas eu toutes les clés en main pour y exprimer sa vision. Alors au final, Seven est le premier film 100% Fincher. Ce thriller très sombre, porté par Brad Pitt et Morgan Freeman, raconte l'histoire de deux inspecteurs de police à la recherche d'un tueur en série qui commet ses crimes en se basant sur les 7 péchés capitaux. Considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre de film policier, Seven n'a pourtant obtenu qu'une seule nomination aux Oscars, celle du meilleur montage, en 1996. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Panayotis, Seven.
Cette voix donne des érections.
Ouais,
c'est
pas mal.
Fou, vraiment. Premier souvenir avec Seven, écoute, je connaissais pas Fincher. Déjà, mon entrée dans le monde de Fincher s'est fait par Seven. Ça a été très chronologique. Et là, je me suis fait Panic Room il y a vraiment pas longtemps, donc je clôture l'ambiance Seven, Fincher. Et j'ai découvert ce film-là à la Cinémathèque en projection 35.
Ah oui, cool.
Présenté par Darius Kondji.
Ah oui, bonne ambiance.
Donc j'étais dans une grosse ambiance folle. Donc c'était très, très,
trop
très
bien.
Cool. Et je connaissais rien du film pareil. Je déteste qu'on me parle des trucs, voir les bandes annonces, les machins. Je ne savais rien. Je savais juste qu'il y avait le chiffre 7 quelque part.
Je suis un peu pareil. Qui regarde les bandes annonces avant de voir un film? Moi, je regarde plus les bandes annonces terminées.
Ouais. Je regarde 10 secondes de la bande annonce.
Ouais.
Pour voir la couleur du film.
Un petit peu,
ouais, exactement. Ah.
Moi, j'aimais bien les voir à l'époque où ils passaient au cinéma. Je trouvais ça cool comme vibe. Mais quand ils ont décidé d'en faire un court-métrage avec la moitié du film à l'intérieur, j'ai commencé à arrêter de
regarder. Parce que finalement, à l'époque, ça avait un peu valeur d'événement parce que comme il n'y avait pas Internet, au cinéma, c'était le seul moyen de voir les bandes annonces.
Je crois que la dernière fois que j'étais saucé par une bande annonce au cinéma, c'était Joker.
C'est vrai.
Où je me suis dit, putain, waouh, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Il y avait un truc où on n'entendait rien, on voyait rien, il y avait juste de la musique et des images. Et c'était hyper beau.
Et au final, il descend à l'escalier.
Oui, voilà, c'est tout que
t'as. Ouais, c'était fort, non, il était fort cette bande. Il y a très peu de trucs événementiels dernièrement, en bande annonce ou en trailer.
C'est vrai.
Bohemian Rhapsody, je crois qu'ils avaient fait un truc assez cool, non?
Ah, c'est vrai.
En trailer, ils avaient assez bien monté le
truc. Avec la musique et tout.
Ouais, c'était assez cool.
Ouais, c'est vrai que c'était cool. Guillaume, ton premier souvenir de Seven?
Eh ben, je l'ai vu au cinéma. Donc, j'étais méga jeune et je me souviens que c'était une méga tarte parce que de bout en bout, j'avais l'impression de voir un film. Tu sais, il y avait ce côté. Bon, évidemment, c'est méga glauque. Et tout me tenait en haleine, tout me mi-choquait, j'étais retourné, etc. à la fin, et j'ai trouvé ça complètement fou. Évidemment, quand tu vois ça à 12-13 ans au ciné, t'es transporté de ouf, et j'ai trouvé ça dingo. Et c'est encore une ref aujourd'hui, parce que je l'ai pas revu beaucoup pour pas... J'ai l'impression que, genre, ma première impression, c'est un des films où tu le vois une fois, et c'est pas le genre de film où on se dit, est-ce que je l'ai vu?
Ouais.
Non, si, tu l'as vu, en fait.
Ah,
c'est sûr que tu l'as vu. Et voilà, ouais, j'adore ce film.
Aurélien.
Pareil, je l'ai vu au ciné, c'est un de mes premiers gros souvenirs ado de ciné, tu vois, genre j'avais 16 ans je crois. Et bah en fait quand le film il sort, on connaît pas Fincher, on sait pas trop ce qui va se passer. Moi je sais, enfin Brad Pitt c'est le moment où il commence à être un peu in, fun et tout ça. Donc on y va pour Brad Pitt en vrai, mais je suis pas prêt moi en vrai. Rien que le générique, je me rappelle de tout, comment le générique il est, comment il est amené, et la première scène avec le mec dans son vomi là, tout, en fait je me rappelle de tout, mais en mode cinéma de cette séance de quand j'avais 16 ans en fait. Donc,
comme un événement traumatique, de on se souvient où on était en septembre, toi tu te souviens où t'étais, mais ouais, scène, ou dans la salle et tout.
Grave, je me rappelle de la salle, en plus c'était la plus grande salle à Orléans et tout, donc je me rappelle d'où j'étais dans la salle, je me rappelle de plein de petits détails dans le film, et en fait je l'ai pas tant revu que ça après. Je me rappelle aussi que c'est peut-être mon premier vrai souvenir de photographie, tu vois. Genre la scène sous la pluie, là. C'est la première fois où je me rends compte qu'au cinéma, tu peux faire vivre un truc incroyable avec juste des effets et de la photo, avec un truc un peu différent, tu vois.
Jouer avec les ombres, etc.
Ouais. Vrai. À cette époque-là, moi, j'avais aucune notion. C'est un peu la première fois où j'ai vraiment un film comme ça qui me bouscule, tu vois.
Oui, d'ailleurs, tu parlais du générique de début.
Ouais.
Ça, c'est un peu une patte de Fincher parce que lui, il vient du clip. Et on remarque que dans tous ses films, en général, il prend vraiment soin à faire un générique de début hyper marqué et hyper mémorable aussi. Il le fait aussi pour Panic Room, que t'as vu il y a pas longtemps.
Très
un truc qu'il fait très souvent. Et c'est vrai que moi j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. J'avais dû le louer au Vidéo Club à l'époque. Et j'avais été marqué justement par ce côté. J'ai l'impression que c'était la première fois que je voyais ça, un film aussi sombre, glauque, où t'as l'impression que la ville est pluvieuse en permanence. C'est un peu ce qu'avait demandé justement Fincher à Darius Kondji, le chef opérateur. Et ce côté hyper sale, etc. Lié à l'enquête policière, etc. Moi, dans mes souvenirs d'adolescence, j'avais l'impression que c'était la première fois que je voyais ça. Et aussi Brad Pitt, j'ai l'impression que je l'ai vraiment découvert dans ce film-là. J'ai l'impression que c'est son premier film fort à Brad Pitt.
Bah ouais, grave de ouf.
Donc c'était assez incroyable.
Il y a aussi ça. Mais je crois que c'est la première fois que je voyais un film sans happy ending aussi.
Ça, c'est fou. Moi, c'est le truc qui m'a chamboulé avec
parce
le film.
Parce que, en fait, tout est dark. En fait, tu sors et t'as pas d'issue, tu sais.
Mais alors, sans vraiment spoiler, j'ai revu la scène de fin pour préparer l'émission. Et c'est incroyable à quel point elle me refoue des frissons. Elle est tellement bien maîtrisé, et surtout la performance de Brad Pitt durant cette scène.
Elle est incroyable.
Tellement bien, c'est incroyable, quoi. C'est fou, cette scène, elle est folle.
Sa carrière, elle change complètement après ça. Hein. Franchement, plus personne ne voit Brad Pitt de la même façon après, quoi.
Ça l'a crédibilisé.
T'as l'impression que t'as vu un autre personnage, c'est même plus la même personne. Et en plus, physiquement, il est un peu différent de la tronche qu'il avait dans d'autres films avant, où il était plus un peu en mode beau gosse, série, surfeur et tout. Et après, ça ouvre un truc de possible pour Brad Pitt, où ça devient vraiment un truc de ouf. Hein.
Puis aussi la musique de Howard Shore qui élève aussi le film. Et c'est marrant de constater qu'Howard Shore, il fait aussi la musique du Silence des Agneaux. Un film qui finalement est assez sensiblement équivalent à celui de Seven dans l'ambiance, quoi. Dans l'ambiance un peu sale comme ça, quoi.
Kondji dit qu'ils ont beaucoup regardé le Silence des Agneaux pour le préparer.
Ah ouais?
Et qu'ils se sont dit comment on peut. En fait, on peut pas faire de film de serial killer après ça, c'est pas possible.
Ouais.
Et du coup, ils ont décidé de prendre une direction complètement opposée, en fait. Et ils se sont réunis à quatre. Avec le chef op, le chef décorateur, Kondji et Fincher. Et ils avaient créé une espèce de room que à quatre. Et ils faisaient des réunions toutes les semaines pour parler de la DA et essayer de trouver des éléments très, très, très précis pour se différencier. Et ils ont eu des gros soucis avec les producteurs quand ils ont vu les premiers rushs ultra sombres, sous ex de ouf et tout. Je crois qu'un des premiers trucs, très rapidement, ça a été des scènes dehors où t'avais quasiment que des ombres de la, c'était éclairé de dos et tout, et les producteurs ont dit c'est très très compliqué.
Et la pluie tout le temps.
On voit rien, ça a été un énorme bras de fer pour essayer de faire un film sombre comme t'as décrit, et moi c'est ce que j'ai adoré dans ce film, c'est la première fois que je vois un truc sombre, mais dans l'image, dans le fond, dans le propos, dans la forme, tout est sombre. Et ils ont eu un énorme souci avec les producteurs jusqu'à une première projection, ils ont montré quelques rushs à une convention et tout le monde a voulu acheter le film et les producteurs ont dit ok, on te fait confiance.
Bah pour rejoindre ce que tu dis, j'avais lu que David Fincher, avant le film, avait donné comme indication à Darius Kondji, le chef opérateur, il lui avait dit « Je veux un film en noir et blanc, mais en couleur.
»
C'est ce que j'avais dit. Et du coup, c'est un peu ce qu'on ressent et ce qu'on voit quand on voit le film.
Ah, c'est couleur rouille,
tellement,
quoi.
C'est tellement poisseux, ce film, en fait.
C'est un délire couleur rouille. Moi, j'avais jamais vu ça dans un film. Tu te dis « Mais c'est quoi les couleurs bizarres, là? Jaune, vert, bizarre. » T'as envie de vomir quand tu vois la couleur des trucs. Il y a rien qu'à sa couleur naturelle, en fait.
Ils ont repeint des décors et tout. Ils ont même mouillé tout le temps pour toutes les scènes. Ils mouillaient le sol pour qu'il y ait des reflets, pour que tout paraisse poisseux, en fait. Ils peignaient tout. Ils ont même fait une technique, j'ai pas trop compris, mais j'ai un peu lu Kondji, il explique comment ils ont développé leur péloche. Et c'est un peu fou, quoi. Il explique que c'est des vraies techniques qu'ils sont allés chercher pour avoir un noir un peu bizarre, un peu poisseux, que tout soit très, très poisseux, quoi.
Alors, en filigrane du film, il y a donc ces fameux sept péchés capitaux qui sont pour la religion catholique des vices qui entraînent tous les autres. Plus globalement, et d'un point de vue policier et judiciaire, ces sept péchés capitaux sont souvent des mobiles pour commettre des crimes en tout genre, dont l'assassinat. Alors déjà, est-ce que vous connaissez les sept péchés? Est-ce que vous pouvez les sortir là?
Ouais.
Guillaume?
L'avarice, la gourmandise, luxure.
Bien joué.
L'envie.
L'envie, exact. Il en manque
très
deux.
Très chaud, l'envie.
Attends, tu m'as dit quoi? Attends, j'ai dit quoi?
Gourmandise, paresse, luxure, avarice, envie.
T'avais pas dit
paresse,
si?
Ah, t'avais pas dit paresse.
C'est très bien joué.
La colère.
C'est le plus dur en général.
Ah bon?
Non, le colère, on l'a dit. La colère, on l'a dit.
Ah, non, on l'a pas dit. Moi, j'étais persuadé que c'était pas dans les 7 péchés capitaux.
Ouais. Ah, si, si.
Bah, bah, c'est ce qui cause la fin de, d'un des personnages.
Ouais.
Il y en a un qui est le plus dur.
La paresse, la luxure. Ah, si, si. Non, moi, j'allais dire l'envie, mais c'est.
C'est l'orgueil. L'orgueil est un des 7 péchés capitaux. Du coup, on va faire un petit tour de table afin de savoir combien de péchés vous possédez.
Ah, ouais, pas mal.
Comme ça, on va pouvoir déterminer qui est potentiellement le plus gros tueur en série autour de cette table. Celui qui a le plus de péchés.
Bonne ambiance.
On va commencer avec la gourmandise, Guillaume. Est-ce que c'est un péché pour toi, la gourmandise? Bon, allez, là.
Je me sens pas tout dans cette émission.
Dis oui, je te connais par cœur, putain.
Je suis gourmand, tu le trouves gourmand?
Bah oui, t'es gourmand.
Bon, franchement, je mange pas tant que ça, si. Tu trouves que je mange beaucoup?
T'es pas gourmand, toi?
Bof.
Ouais.
Ah, c'est pas que par rapport à la nourriture.
Ah, je suis gourmand.
C'est vrai que je suis gourmand de la vie.
C'est ça qu'on pense à la vie.
Bon, allez, je vais dire oui.
Allez, Dieu. T'es gourmand, toi, Panoutis?
Franchement, je suis gourmand de certaines choses.
Ouais, parce comme
que, comme j'aimerais réentendre comment tu sais pas dire mon prénom. T'es gourmand Panoutis, tu vois, j'en veux encore plus.
J'ai dit Panoutis, toi?
Panoutis. Non, mais j'ai une gourmandise pas par rapport à la bouffe, mais par rapport à des trucs bizarres.
Comme?
Tuer des gens. Mais griller trop rapidement, griller beaucoup trop rapidement.
T'as gagné
moi,
le jeu,
le tueur en série, dommage. Désolé.
C'est fini, allez, ciao.
Non, la scène, par exemple. J'ai eu des phases où je pouvais jouer 4-5 fois par soir. Je pouvais jouer cette espèce de puissance sur scène. Je voulais la retrouver. Je pense que c'est un côté.
Tu as donc
mais ça
péché.
Mélange tout. Orgueil, gourmandise.
Envie.
T'as tout déjà, c'est
Ego.
Bon.
Oui, il a
Aurélien. Avarice, parce que tu fais ça pour la thune.
Exactement.
Aurélien, la gourmandise.
La gourmandise, oui.
Oui, tu l'as dit comme un mec gourmand. Toi, la gourmandise.
T'as une carte fidélité frichti et tout. Toi,
ouais, je sais pas.
Bon, moi, c'est
ça
oui.
Ça peut aller, ça peut aller.
Énorme
ça,
gourmand.
Ouais, toi, oui.
Ouais, non, ah, gourmand.
Non, lui, oui. Oh, oui.
Oui, bon, ça va.
Ah ouais. Sucré gourmand.
Ouais, je suis très gourmand.
Sucré salé.
Bec sucré.
Les deux. Pied droit, pied gauche. Très polyvalent en attaque. Guillaume, l'orgueil. Est-ce que t'es orgueilleux?
Oh non, je crois pas.
Non, t'es pas orgueilleux?
Non, vraiment pas.
Bon, très bien.
Désolé, j'ai cassé l'ambiance, mais.
Panayotis.
Comment on définit précisément l'orgueil?
Ouais,
parce que j'ai l'impression qu'il a plusieurs définitions.
L'orgueil, pour moi, c'est quand tu te la pètes et tu te sens au-dessus des autres, quoi. Tu vois.
Alors oui. Ah. je pense que j'ai un fond de ça qui contrebalance un truc bizarre de j'ai jamais eu de validation de mon père.
C'est un 2 sur 2.
Après, l'orgueil, ça peut se jouer sur, par exemple, tes mauvais perdants, genre, truc, tu vois.
Ah non, pas du tout. Par contre,
tu crois?
Je suis très bon perdant.
Bien sûr, parce que t'as l'orgueil de pas être, tu vois.
J'adore perdre, même. C'est très bizarre, j'adore perdre. Pour comprendre pourquoi.
J'adore perdre.
Aurélien, l'orgueil.
Je pense que dans la définition, je me sens un peu au-dessus. Ça peut marcher. Après, non, je suis pas mauvais perdant.
Ah, tu te sens au-dessus, toi?
C'est toi, tu te sens au-dessus de nous, par exemple. Parce que ça va très mal se terminer, ce podcast, en fait.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je pars toujours d'un concept où, j'ai l'impression que.
Par rapport à Guillaume, par exemple, tu te sens au-dessus de lui ou?
Pas du tout. Je parle pas par rapport aux gens de cette pièce.
T'as demandé à être payé le double de ce que nous, on est payé.
Voilà.
C'est-à-dire 8 millions d'euros.
Ouais. Non, par rapport à la société en général, je me dis que, des fois, je peux réfléchir plus vite.
Ah ouais.
Voilà.
Toi, t'aurais fait quoi, par exemple, pour le Covid?
Je pense que les vaccins, les mecs.
Il y a un an et demi quand la crise a commencé, les vaccins.
On parle de péché, tu vois, donc c'est pas un truc vraiment cool, hein. C'est que je pense, oui, peut-être.
La paresse.
Non, et toi?
Ouais, non, pas du tout.
Pas du tout, ouais. Tu t'appêtes pas, toi?
Non.
Sauf à Mario Kart, quoi.
Oui, c'est vrai. Effectivement.
Par exemple.
Un petit peu, oui. La paresse, Guillaume.
Oui.
Ouais.
Oh oui, alors là, par contre, oui.
Ouais, moi aussi.
Oh là là.
Ouais, moi aussi, paresseux.
Quel flemmard. Quel horrible flemmard.
Parfois, on se dit même pour les trucs qu'on aime bien faire, on est paresseux.
Hein? Je vais donner un exemple de paresse.
Ouais.
Je voulais regarder un Blu-ray, mais il fallait que je rebranche un câble HDMI derrière la télé. Je suis resté dans le canapé et j'ai acheté un film.
Mais ça, tout le monde le fait, ça. C'est un classique aujourd'hui.
Yes.
Ah, j'avoue.
Et toi, alors, la paresse?
J'y crois pas.
Ouais, non?
J'ai des phases,
ouais,
mais qui sont si courtes.
Très
et
bien.
Après, il suffit que je tue quelqu'un. Et ça passe.
Aurélien.
Mi figue, mi raisin, ouais.
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 Ouais, très
j'ai
bien.
J'ai des phases. Mais je pense pas qu'on puisse dire que.
Le prochain est très chaud vu que c'est la luxure. Guillaume.
Ah.
C'est déjà ce que j'adore baiser?
Ouais.
C'est ça,
effectivement, ouais.
J'ai envie de dire oui, mais après, je cours pas après le.
Mais t'en raffoles?
Ou. Non, j'en suis pas du tout obsédé par contre.
Très bien.
Si c'est ça la question.
Donc c'est non alors.
Donc oui, voilà, oui.
Oui, voilà. Panayotis, est-ce qu'on en raffole de la baise?
Non, je crois pas très libidineux.
Ouais, non.
Je crois pas.
Mmh. Aurélien?
Mmh, sans plus.
Ça ouais, va. Moi aussi.
Ok,
plus.
Ok. Ouais, quoi.
Elle s'abonde, moi, autour de la table.
Ouais, c'est très horrible.
C'est du tristesse. Alors, c'est du tristesse folle.
Aucun moment, ça se termine en partout. Hein. Ça va rentrer petit
à petit. On va enchaîner la paresse et la luxure très tristement.
Personne n'a ce péché.
Ouais, bon.
L'avarice, non, Guillaume?
Ça va souvent ensemble.
L'avarice, qu'est-ce qu'on appelle l'avarice? C'est que
j'aime. Radin.
J'aime le blé.
Non, je crois que c'est quand t'es radin, l'avarice, non?
Ah bon?
Je
ouais,
crois, hein.
Avare, ça veut dire que
peste
tu...
soit de l'avarice et des avaricieux.
tu veux gagner de l'argent et en plus tu veux le garder pour toi. Donc c'est personnel, non. C'est très...
T'es radin, Guillaume ?
Non, je suis pas radin.
Non ?
Non.
Ouais, non. Alors, Pana, t'es...
Pas du tout. Moi, c'est ouais. Vraiment littéralement le truc qui fait que je peux ouais. Ne plus être ami avec quelqu'un.
C'est vrai.
S'il il veut me prendre des sous. L'avarice, c'est un des trucs qui me dégoûte le plus.
Aurélien.
Avec les nazis.
Moi, pareil. Surtout, ouais, non, c'est vrai, j'aime pas.
Moi aussi, je suis pas avare.
Je suis pas avare, non.
Non.
Je suis pas du genre.
La colère, t'es colérique, toi ?
Pas du tout.
Ouais. Non, ouais, moi non plus.
Mais c'est très mou, hein, ce que je dis là. Ouais. J'ai l'impression que je suis mou, j'ai un verre de terre, en fait.
Sauf quand je te baise à Mario Kart.
Ouais, non, tu m'énerves un peu, mais toi, tu t'appêtes aussi.
Pana, la colère, non colérique? Non,
au contraire, rien ne sort. J'intériorise tout, je vais dans le salon, je fume une clope.
C'est vrai que t'as l'air calme en général, t'as l'air.
Ouais, c'est un peu bizarre. Je deviens mon père. Non, je fais rien. C'est ça que je me fais, quand il y a des embrouilles, je me fais que prendre des coups, j'en mets aucun, je sais pas faire. C'est horrible, vraiment.
Mais est-ce qu'on sait vraiment se battre?
Ah, moi, par contre, je vous défonce.
Ah ouais?
L'orgueil revient sur l'orgueil.
En théorie.
L'orgueil, ça va.
La colère, Aurélien?
Par très petite touche.
Ah, tu t'énerves parfois, toi?
Oui, mais je fais beaucoup de bruit, mais après, il se passe rien.
T'es grognon.
Ça peut arriver.
T'es grognon.
Ouais, c'est ça, ouais.
Oh, il est ronchon,
d'un coup, ça peut faire bah! Mais après, justement, j'aime pas trop.
Ça va vite ou pas?
Ça peut aller vite, ouais, ouais.
Petite merde. J'ai vu dans ses yeux que ça pouvait partir. Ok Aurélien, je m'excuse. C'était un test.
Je peux voir un mini sans chaud.
La sociologie, désolé. C'est désolé.
Et enfin le dernier, l'envie. Est-ce que tu envies les autres, Guillaume ?
Non, pas du tout.
Non. T'en fous ?
Ouais, vraiment.
Enfin, là, tu t'en fous ? Tu envies les autres ?
J'ai ça par moment.
Ouais, parfois.
J'ai ça.
C'est vrai, Guillaume. Dis oui.
Moi, je dis oui aussi.
Non, ça peut arriver. Moi, en fait, j'ai l'impression que ça m'arrivait vraiment quand j'étais plus jeune. Là, plus le temps passe et plus je me dis.
Donne-moi un exemple. Tu vois.
Non, mais j'envie personne, en vrai. Tu vois,
ouais, voilà. Moi, ouais. J'envie les gars.
On l'enchit tous, en fait.
Parfois, je me dis, putain, j'aimerais bien être multimillionnaire. Ça, voilà, c'est tout.
Ouais, non,
c'est
voilà,
tout ce qui m'arrive, mais comme tout le monde.
Pour avoir un gars qui branche tes câbles
voilà,
quand tu le matin.
Va brancher les câbles HDMI, s'il te plaît. Oh là là.
Si vous étiez millionnaire, vous produiriez des films? Les vôtres?
Ouais, je crois.
C'est bon, à mon avis, c'est pas quand même en un claquement de doigts que ça se passe.
Oui, bien sûr,
c'est pas qu'une question de thune, hein. Il y a une petite question de talent quand même qui se passe.
Ouais, mais justement, la question, c'est que même si ton film est merdique, tu peux le produire, tu t'en fous, t'es
d'être fou. Ah ouais, c'est vrai ça.
Bah, je crois oui, hein, bien évidemment.
Est-ce qu'on continue le podcast si on est millionnaire?
Qu'est-ce que je ferais? Ah ouais, ouais.
Ouais, je le continue.
Ouais, je pense, ouais.
Complètement.
J'y crois tellement pas.
si. Bah, tu fais quoi en vrai si t'es millionnaire? Tu fais rien sinon? Tu dis genre, ouais, c'est pas la peine que je le fasse, de toute façon, je suis millionnaire. Tu fais rien en fait.
Est-ce que vous me donnez un peu si vous êtes millionnaire? Vous me donnez un
petit peu. Déjà, il y a une question qui se pose, qui est très intéressante.
Si vous gagnez tout seul.
Pensez à votre meilleur ami, ok? Là, vous gagnez...
Putain, j'ai pas de meilleur
ami.
Dis que c'est moi.
Il y en a plein.
T'en as combien?
Je sais pas. Franchement, j'ai l'impression que c'est un
très bon ami.
Ok, un très bon ami.
Très bon ami.
Vous gagnez 1 million d'euros au loto. Sur les 1 million... Non, mais oui, mais justement, c'est pour ça.
C'est pas ouf, ça, 1 million.
Est-ce qu'on fait une clownet ou pas?
1 million d'euros, vous donnez combien à l'ami?
Mais zéro. 1 million.
Zéro? Bah, attends, 1 million, c'est un petit truc.
Attends, après les taxes? Après les taxes?
Il y a des taxes sur les quand tu gagnes au loto?
Clownet, il a offert 1 million à ses 14 amis d'enfance.
Oui, ça, c'est très sympa d'avoir
14.
Sympa, je suis pas sûr, parce que moi, je pense que ça peut baiser des vies de faire ça.
Alors attention, il l'a pas fait aux amis d'enfance, je crois, il l'a fait à ceux qui l'ont aidé dans son parcours.
Ah oui, c'est
encore
vrai,
plus noble.
C'est vrai.
C'est encore plus noble.
Et c'était Weinstein, Woody Allen, Polanski.
Et Pierre Ménès.
Il aurait payé leur frais d'avocat, en fait.
Oh putain, horrible.
Non mais 1 million. Combien tu donnes 1 million?
1 million, je donne rien. Allez, là mais ça coûte 1 million, un appart.
Ouais, c'est vrai.
Au final, ça va vite, 1 million.
Tu donnes un petit 5 000.
Ok.
Non, c'est bien.
50 millions.
50 millions, je donne 1 million.
Moi, je donne un petit 5 000.
Je crois que je ferais pas ça. Je crois que je dirais, qu'est-ce qu'il te faut? Tu veux un appart? Je t'achète un appart.
Ce qu'il me faut, 5 millions.
Je t'achète un appart.
À 5 millions.
Bah, non, mais n'importe quoi. Bah oui, mais tu vois, t'as vu les embrouiller comment? Tu te rends compte, vous êtes des meilleurs potes, vous embrouillez pour un truc fictif. Ah ouais, personne n'a gagné 50 millions.
Tu peux pas demander une somme, c'est à l'autre de donner
la
somme.
Je t'achète un beau coffret DVD. Choisis. Nickel.
Le Mondo du cinéma.
Belmondo? Pierrot le Fou. Tu veux Pierrot le Fou en Blu-ray?
Pierrot le Fou.
En plus, le pire, c'est que t'es obligé de dire merci, quoi. C'est horrible.
Non, c'est horrible. Après, en plus, il y aura une ambiance horrible. Après, il va t'enculer à Mario Kart et dire, ah, en plus, je te donne des sous!
Et non, après, c'est horrible. Si j'arrive à ton anniv et que je te fais pas un bête de cadeau.
Ah oh oui, là, par contre.
Tu vas dire, bah quoi? Je t'offre une guitare.
Non, ça, non, je peux rien dire.
Je t'offre un vrai truc. Tu vas dire, bah, super.
Oui,
il a gagné 50 millions, il m'a acheté une console.
Ouais.
C'est un cadeau.
C'est vrai. T'as raison.
C'est horrible.
Je pense qu'il faut le cacher. Je pense que si tu deviens très riche, il faut le cacher à ses amis.
Je pense que je le cacherai, moi, effectivement.
C'est pour ça que je continue le podcast, en perso. Bon, voilà.
Gagnant du loto de 2017.
On se disait, il a beaucoup de dents en or, le gars.
Alors, dans Seven, le duo Brad Pitt-Morgan Freeman fonctionne à merveille. Et dans l'histoire du cinéma, ce traditionnel schéma jeune loup associé à un vieux loup a souvent existé, Guillaume.
Il a souvent existé et on va faire un petit quiz entre vous trois.
Il va y avoir beaucoup de jeux aujourd'hui.
Il y a beaucoup de jeux. J'ai besoin de vous pour résoudre des enquêtes. J'ai fait comme si c'était des petits post-it collés sur un tableau, un tableau noir, et on va chercher le film qui correspond. Alors écoutez bien les indices. Est-ce qu'on fait la règle de celui qui répond, il a plus le droit de répondre après ?
Exactement, c'est la règle de l'élimination.
La règle de l'élimination.
Je la connais pas.
En gros, cherche que des première réponse, t'es hors course.
T'es foutu, c'est pas la bonne.
Ah, d'accord, voilà. D'accord.
Pas le droit de faire 8 réponses.
On cherche que des films à duo de flics. Ça commence comme ça. Premier indice sur le post-it. Troisième long métrage de mon réalisateur.
Deuxième, hein, deuxième indice. Je le vois le post-it là.
C'est que des indices. C'est que des petits indices. C'est même pas des phrases. C'est des indices qui sont
mon réalisateur quoi préféré.
Non, mais du réalisateur du film.
D'accord.
Ça commence bien. Bel enquêteur.
C'est nul.
104 millions au box-office mondial.
Oh putain.
Los Angeles.
Ok.
MTV Movie Award du meilleur méchant.
MTV déjà, c'est-à-dire que c'est les années 80.
BO incluant le morceau Greed interprété par Clips et les Neptunes.
Ah non. Bad Boys. 2.
Non, faux. Et voilà. Et voilà. Ben non.
J'avais dit le 2.
Tu peux plus jouer.
Ok.
Snoop Dogg acteur.
Ah putain, je l'ai en plus.
L'action se déroule sur une journée.
Ça sort en 2001, bordel.
Ah, c'est.
Avec Antoine Fuqua.
Denzel Washington et Training Day.
Training Day, voilà. Si. Aïe, Training Day.
Tu fais avoir.
Les personnages s'appellent Lake Hoyt et Alonzo Harris. Le titre québécois est Jour de formation.
Pas mal.
Training Day sorti en 2001. Un point pour JB, bravo. Tableau noir. Deuxième indice. Premier indice du deuxième film. New Line Cinema.
Quoi?
New Line Cinema.
D'accord.
Je suis pas sûr que ça t'aide beaucoup. Les premiers indices sont toujours un peu flous.
Je les ai tous en tête, là.
Sorti en 98.
Ouais.
Musique composée par Lalo Schifrin.
Oh, 98 ouais.
Le gars qui a fait les tuches.
Il a fait Mission Impossible.
Et il a fait juste La Main Froide aussi.
Et Bruce Lee.
Il a fait
Opération Dragon.
Et Inspecteur Harry.
Ouais.
Titre du Wu-Tang Clan sur la BO. Wu-Tang Clan.
Le Wu-Tang. Le Wu-Tang.
Le logo du film est tout rouge.
Le logo du film est tout rouge.
Un des deux acteurs principaux n'aime pas ce film.
C'est pas Rush Hour.
Oh, Rush Hour, il est bon.
Ah, joli, bravo.
Bien joué.
T'es fort. Bah non, mais je savais pas que c'était Lalo Schifrin, j'ai failli me faire avoir. Mais après, 98...
Un agent du FBI fait équipe avec un spécialiste des arts martiaux.
Mais c'est Jackie Chan, il n'aime pas ce film, je crois.
Le titre, ouais, exactement, il a dit qu'il détestait ce film.
Alors qu'il en a fait trois après.
Il aime l'argent.
Il n'aime pas la... Ouais, c'est ça. Il a dit non, je préfère mes films que j'ai fait au Bled.
Ouais, je comprends.
Titre québécois et Heure Limite, c'était Rush Hour, bien joué.
Heure Limite, vraiment, ça s'appelle comme ça ?
Heure Limite.
Oh, damn.
Troisième film. C'est un truc de pharmacie horrible.
Pour l'instant, ça fait 1-1-0. 89 minutes.
Quoi ?
C'est la durée du film, je présume.
89 minutes. Bah, c'est vous les enquêteurs, les gars.
Je pensais que c'était pour cuire les pâtes.
C'est vous les flics,
je présume.
La durée du film, je présume.
C'est-à-dire 1h30 comme tous les films, quoi.
Gaumont.
1h29.
Budget de 5 millions.
N'importe quoi.
Ah ouais.
C'est une pub.
C'est un film français.
Le nom de Steve McQueen dans un de ses films.
Le nom de Steve McQueen.
C'est même plus des indices, c'est ce qu'il raconte.
Le nom de Steve McQueen dans un de ses films.
Nombreuses références, notamment au Silence des Anneaux. Attention, gros indice. Une partie du tournage à Champs-sur-Marne.
Mais non !
Ah ouais, c'est tout.
C'est tout.
La voix de Christophe Maé est dans le film.
Ah,
c'est pas qui a tué Pamela Rose, non ?
Oh, c'est tout très beau ce qui se passe. Avec Christophe Maé, comment t'as fait ?
Eh ben, je pense sur Marne, je sais pas.
Clin d'œil au pilote de la série Twin Peaks, évidemment, et les inventeurs du Camoulox. Dernier indice, et je suis qui a tué Pamela Rose en 2012. Ça fait 2-1-0.
Bien vu.
Attention, Carol Co-Pictures. Chicago.
Pas quoi mal.
Quoi Pictures ?
Carol Co. Il nous fait des bacs de chansons. Et on a Offset avec nous. Chicago.
Moscou.
Ah, d'accord.
James Horner.
Ah. Oui, ça s'appelle ce film là.
Un des personnages.
Double détente.
Bah très bien joué.
Wow.
Ouais, mais c'est l'as du cinéma. C'est le meilleur détective.
J'avais l'affiche là, Jim Belushi, Schwarzy, mais j'arrivais plus à trouver le film.
Un des personnages donne son nom au secteur A, figurez-vous.
Ah ouais.
Ouais. Okay. C'est un mec. C'est un chef de gang noir dans la prison qui s'appelle Abigail. Ah ouais. C'est le secteur Abigail et c'est le secteur A.
Je sais pas.
Ah, eh ouais, je vous apprends des choses. Même à toi, je t'apprends ça.
C'est,
ah,
c'est
ça.
Vrai, c'est vrai.
Le méchant se nomme Rotsavili. Les frères, ouais, le frère de, ouais, les indices, ils étaient durs. Le frère d'un des frères Blues. Arnold a un accent. Mon titre original est Red Heat. Ok. Je suis double détente, Walter Hill en 1988. Attention, il y a 3.10.
Ah ouais, je suis éclaté. Mon cerveau
moi,
ne fait aucun lien.
Éclaté aux indices.
Mais c'est pas très grave, je passe un bon moment.
Cypress Beach, Californie.
Quoi?
Cypress Beach, Californie.
C'est un groupe de rap?
Non. Dernier film pour Jock McIntyre. John McIntyre.
Quoi?
Fonzie viré du tournage. Fonzie viré du tournage.
Ah!
323 000 spectateurs en France. Le logo est tout jaune.
C'est, les couleurs, je suis fort d'habitude.
Le titre est le nom des personnages.
Ah!
Ça me dit rien.
Sur l'affiche, on peut lire un couple étrange qui leur en fera baver.
Ah,
Mr. et Mrs. Jones?
Non.
Voilà, je m'arrête là.
Il s'agit de Mr. Nice Guy et un dog de Bordeaux.
Ah, Turner et Hooch?
Turner et Hooch, oh là, ouais.
Je ne sais pas ce que c'est.
Tu sais pas ce que c'est?
Non.
C'est
avec depuis le début, il y a beaucoup de
c'est
films.
Des trucs à eux, ça. C'est...
Mais c'est parce que vous vous attendiez à l'arme fatale, etc., mais bon.
Ouais. C'est vrai.
Mais donc, c'est-à-dire que c'est Tom Hanks qui est plus expérimenté que le chien, alors.
Pourquoi?
Dans ce duo. Parce qu'il y a toujours un duo qui est plus expérimenté, en fait. C'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, ok.
Alors, t'as 4 points et 1 pour Nemo. Bah, c'est dur. On va faire un double à la fin.
Je donne que les indices.
Columbia Pictures. 170 millions de dollars au box-office. New York. Flic qui recherche flic. La femme de Ryan Gosling joue dans ce film.
Ah!
Non, je sais pas. Meilleur score d'entrée en France pour Adam McKay.
Ah! The Other Guys. Very Bad Cops.
Very Bad Cops.
Allez.
Bravo. Bravo à lui.
Les deux protagonistes sont papa dans un autre film. Le titre québécois est Les Renforts.
Et ça s'appelle vraiment Les Renforts.
Ouais, ça s'appelle Les Renforts. Et c'est sorti en 2010. C'est Very Bad Cops. Bien joué. Ça fait 2 points. 4 points et 0 points.
0.
Attention.
0, pas 0.
Il reste 3 films. César du meilleur réalisateur, Choc des générations, Pot de vin.
Les Ripoux.
C'est la remontée, c'est la remontée. 4, 3, 0.
C'est presque mon code d'immeuble. Dans pas longtemps, on peut aller, je peux aller dormir.
Les indices étaient, en 1985, on a créé un jeu de plateau inspiré du film. On officialise un 8e mot terminant par un X au pluriel grâce à ce film, Ripoux.
Il y a un jeu de plateau à Ripoux, c'est
génial. Ouais, il y a un jeu de plateau des Ripoux.
J'ai envie de jouer.
Le titre est en verlan, décès de René en 2006. Ah ouais. Et je suis réalisé par Claude Zidi, je suis les Ripoux. Attention à vos derniers films.
J'adore ce film. Genre le style de René.
Ça, ça peut aller très vite. Mafia marseillaise.
Taxi.
Ah bah c'est faux.
Mais merde.
French Connection.
Non, c'est faux. Il n'y a plus que toi qui peux répondre.
Bah, ça va être très long. Hein. Fais tous tes indices. Hein.
Toi, fais tous les indices. Dernier film de Jean-Yann. Leur prénom à la ville sont Gilles et Christophe. Il est sorti en 2003.
Il a le champ libre. Hein.
C'est le dernier long métrage.
J'ai trop de pression.
Oh, putain, je sais.
De l'humoriste au sketch des chips.
Oh, les chips.
C'est la première apparition de Doc Gynéco au cinéma.
Il y a Tony Bugsy dedans.
Exactement.
Ah, c'est Gomez et Tavares.
Gomez et Tavares.
Allez,
ouais,
je te la donne, celle-là.
Non, mais il y a un point.
Prends-la, hein.
Bah non, c'est pour ça, celle-là.
Non, t'inquiète, c'est gentil.
Ok, on va faire la dernière. Et la dernière, c'est un qui tout double, évidemment. On remet toutes les cartes à zéro. Celui qui trouve, il a gagné le jeu. Nomination de pire acteur et pire second rôle au Razzie Awards. Gaspillage de temps et d'énergie à tous les niveaux dans le Los Angeles Times. La BO du film n'est sortie qu'à 3000 exemplaires en 2007.
Je l'ai. J'ai la BO, je veux dire.
Ah ouais?
Ouais. Non, je sais pas.
Patrick Swayze a préféré tourner Roadhouse.
Ah!
Roadhouse.
Attends.
Ah putain, je crois que je l'ai.
Non, j'ai pas envie de dire merde. Ouais, j'ai pas envie de dire merde.
Premier pas au cinéma de Terry Hatcher.
Oh, on l'aime pas.
Ah, Tango et Cash.
Tango et Cash, c'est magnifique, c'est ouais. Passé. Tango et Cash. Et l'indice d'après, c'était Danse et argent. Tango et Cash, policier en prison, le titre québécois est duo de choc. Tango et Cash en 1989, et c'est une victoire de Jean-Baptiste.
Ouais, mais écoute, bravo, bravo.
C'est le meilleur détective de cette brigade.
Je crois que je peux être détective.
T'enquêtes bien.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Alors, Aurélien, il y a dans ce film un acteur qu'on adore tous, c'est Morgan Freeman.
C'est vrai.
Déjà, on dit à chaque
fois. Dans Tango et Cash ou dans Seven?
Dans Seven.
Seven.
J'ai dit Tango et Cash?
Non.
C'est l'ancien.
Ouais, donc dans Seven, il y a un acteur qu'on adore tous, c'est Morgan Freeman. Et juste, je me demandais, est-ce qu'il y a des acteurs comme ça qu'on aime, qu'on est obligé d'aimer comme Morgan Freeman?
Robin Williams.
Ouais. Donc toi, on peut pas ne pas aimer.
J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit franchement non.
Jamais.
Ouais, c'est vrai.
Franchement non. Ou alors il aurait cette voix. Franchement non. Robin Williams, c'est non.
Mais c'est vrai que Morgan Freeman, on l'adore. Tu l'adores d'ailleurs. Pff,
franchement, il me fait rien. C'est ça qui est horrible. Pour moi, c'est Dieu dans Bruce Tout-Puissant.
Puissant.
Mais il me dégage pas grand chose.
Ouais.
Je sais pas pourquoi. Mais tu le kiffes. Tu peux pas. En fait, pour moi, c'est très neutre. C'est.
Il est là, quoi.
Des pâtes au beurre.
Ok.
Il est présent.
Même pas sans gruyère.
Non, parce que. Non.
Juste pâte au beurre. Un peu de sel, quand même.
Non.
Ah ouais, donc vraiment pas.
C'est pâte au beurre, quoi, cool. Tu sais, je pourrais en manger tous les jours.
Beurre salé au moins.
Beurre, du petit beurre doux.
Donc c'est pas.
C'est pas incroyable.
Non, c'est pas incroyable. Robin Williams, est-ce que vous êtes d'accord sur Robin Williams?
Bien entendu.
Ouais, on est tous obligés d'aimer Robin Williams.
Ouais, c'est dur.
Si, il y a Titoff aussi.
Titoff, pas mal.
Obligé un petit peu.
Tom Hanks.
Ah, j'ai rencontré quelqu'un qui aime pas Tom Hanks.
C'était qui?
Quelqu'un qui m'a dit, je sais pas, il m'énerve. Mais je pense que c'est quelqu'un qui savait pas avoir de personnalité et qui voulait être l'inverse de ce que tout le monde dit. Tu vois ce que je veux dire?
Aigri, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc ça existe des gens qui n'aiment pas Tom Hanks.
Ouais.
T'aimes bien Tom Hanks, toi, Guillaume?
Oui. Non, si, j'adore.
On l'adore.
Non, mais il y en a un auquel je pense, c'est Michael J. Fox. Qui déteste
tout
Michael J. Fox?
C'est vrai qu'on est obligé d'adorer.
Il a pas fait beaucoup de films aussi, bon.
Bon, quand même.
Ouais.
Et un peu énervant. On parle du même monsieur, hein.
Retour à le futur.
Il m'énerve un petit peu. Après, j'ai pas grandi. Déjà, je te dis mon vrai point de vue. Quand j'ai appris, c'est un peu horrible, c'est pas pour lui, mais quand j'ai appris qu'ils ont retourné des scènes de Retour vers le futur alors qu'il y avait un autre gars, je me suis dit ça devait être triste pour lui. Et du coup, je sais pas pourquoi ça m'a rendu méchant dans ma tête, Michael J. Fox. J'ai fait ce lien.
Mais il a rien fait.
Ouais, mais je me suis dit t'as pris la place d'un gars alors que c'est horrible.
Surtout, il
m'énerve un peu.
Surtout qu'Harry Styles, il est passé à côté d'un des films les plus fous de l'histoire du cinéma. Quoi.
Au final, il finit dealer dans Pulp Fiction, le pauvre.
Ouais. Attention, il y en a un autre, Bill Murray.
Ah oui, Bill Murray, c'est...
Ouais, mais je peux comprendre, il y a des gens qui l'aiment pas.
Les gens, ils s'en foutent.
Il y a des gens qui l'aiment pas. Non, il y a des gens qui s'en foutent, mais il y a pas des gens qui se disent, ouais, c'est une merde et tout.
Ouais, c'est impossible.
Il y a toujours au moins un.
Ça dépend des films, tu vois. Il y a des films où tu peux dire, il est chiant.
Brad Pitt, j'ai peu rencontré des gens qui étaient en mode, j'aime pas Brad Pitt. Il y a des gens qui sont en mode, il est surcoté et tout, mais j'ai jamais eu deux, j'aime pas Brad Pitt.
Mais ce qui est génial, c'est que les gens qui disent qu'il est surcoté, en général, bon, bah, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire.
Non mais tu sais comme s'il y avait un avis genre ok je présume qu'il joue pas si bien que ça la comédie mais il y a pas vraiment d'avis d'expert derrière quoi tu vois ce que je veux dire.
Moi j'ai commencé à vraiment beaucoup l'aimer à partir du putain les films des frères Cohen là où il joue un
Burn After Reading
là j'ai vraiment commencé à l'apprécier et quand je l'ai vu torse nu aussi il y a pas longtemps là dans
La scène sur le toit, là.
Ouais, bah oui.
Incroyable.
BG. J'étais au ciné à Montréal.
C'est vrai qu'il est BG, hein.
Avec des potes humoristes.
Il est très BG.
Bah oui.
Alors, Guillaume
il est plus vieux que. Il a le même âge que Castex.
Guillaume nous donne l'info qu'il est BG.
Non, c'est vrai. Le même âge que Castex.
Ouais.
Ah, c'est génial.
Ou alors il est un peu plus vieux, je crois. Un an de plus, autrement. Ouais.
Que
Jean Castex. Brad Pitt.
Et plus vieux que Castex.
Ils ont le même âge, quoi. C'est la même génération, quoi. Ils sont dans la même classe.
Je vais googler ça en direct.
Google ça en direct, normalement, c'est ça.
Mais non.
Déjà, je pensais que Macron.
En tout cas, tu nous importes l'info que Brad Pitt est BG.
C'est vrai qu'il est BG. Bah, ouais. Je l'ai su parce que je disais, tu ressembles grave à Brad Pitt et tout.
Ah, c'est comme
du coup,
ça
que j'ai fait le lien, ouais.
Il a un aura, quand même.
Il est né un an après mon daron. Après. Ah non, d'accord, n'importe quoi. Non, j'ai dit n'importe quoi. Il est né en 63, il est né un an après Madaron. Ça va, en vrai, il a 57 ans! Madaron, elle a. What?
Mais oui, il a 57 ans.
Madaron, elle a toujours 40 dans ma tête.
Et Castex, il a quel âge? 57 ans.
57
ans,
Castex. Tellement.
Brad Pitt et Castex, c'est la même génération.
Ils pouvaient être dans la même classe.
C'est 80 ans, lui.
C'est fou, hein. Il y a un autre gars en France que personne peut détester, je crois. C'est Thierry Lhermitte.
Ah bon?
Ah ouais.
Oh, si, on
peut. Ah ouais. Tu peux ne pas le détester, mais tu peux te dire franchement, pas ouf.
Christian Clavier, on peut pas le détester.
Ah si.
Pardon.
Dieu donné aussi. Bon allez là.
Pardon. Non, il y a qui? Et c'est qui est très clivant?
Comme acteur?
Seymour Hoffman.
Ah non, moi je l'adore.
Bah oui, mais on est un peu obligé. Qui? Bah oui, c'est ça. On est d'accord. Ah bon, Clivant? Non, justement, je disais Philippe Seymour Hoffman, il fait partie de la team. Tout le monde l'aime bien, non?
Ouais, tout le monde l'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas mal de partir maintenant dans les clivants.
Les clivants?
Ah, dans les clivants.
Quel est l'acteur qu'on déteste le plus? Des acteurs comme ça qu'on déteste?
Ça fait chier.
Ah, DiCaprio, m'a beaucoup énervé.
Ah ouais, DiCaprio, t'énerve.
Ah ouais? Kevin Spacey pour des raisons particulières ou?
Bon, quand même, il est chiant dans tous les rôles. En fait, quand tu penses à sa vie en plus personnelle.
Il joue tout le temps les rôles. Un peu pareil, mais après, on lui met tout le temps les mêmes rôles.
Moi, ça va plus être les acteurs ou les actrices qui cabotinent. Mais j'en vois pas comme ça, là.
Cabotine.
Bah, Terry Hatcher, par exemple.
Ah oui, donc. Ouais, cabotine, Terry Hatcher, c'est vrai.
Si je peux me.
Ça cabotine à fond.
Permettre, parce que je vais vérifier mon info journalistique. Castex a 2 ans de moins que Brad Pitt.
Ah, bah, merci pour la fake news.
Voilà. 2 ans de moins.
Donc Brad Pitt aurait pu mettre des grandes claques
Brad
à Castex.
Brad Pitt est le grand frère de Joe Castex.
Donc Castex est plus jeune.
Castex est plus jeune que Brad Pitt.
De 2 ans.
C'est incroyable.
Il a 55 ans.
De 2 ans, de une pandémie Covid.
Finalement, ton info est encore plus folle.
Elle est croustillante.
Ouais, putain, c'est dingue. Incroyable.
Ah, DiCaprio, un peu énervant, non?
Ouais, bon, non. Je sais pas.
Ça dépend des films, mais oui, je comprends ce que tu veux dire.
Il y a ce truc de, mec, t'en fais beaucoup, quoi.
Ouais.
Je pense que
surtout dans The Revenant. Mais moi, j'adore ce film.
Ouais,
moi,
ah oui, il est génial. Il est génial, mais t'as un peu ce délire de... Bah, je me suis rendu compte de la grande différence de style entre Brad Pitt et DiCaprio avec le dernier Tarantino.
Ils ont pas le même rôle.
En me disant, ouais, bien sûr, mais en me disant, en fait, quand il y en a un qui a une émotion, il la sort et il la sublime et il montre tout. C'est DiCaprio, ce qui peut être par moments énervant. Et quand t'as un Brad Pitt qui vit un truc, il l'intériorise et c'est beaucoup plus troublant. Et moi, ça me choque beaucoup plus et ça me perturbe beaucoup plus. Et la dernière fois, je m'étais dit, si jamais c'est Brad Pitt qui avait joué le rôle de DiCaprio dans Django, tu sais, la fameuse scène où il se brise vraiment la main. Tu sais, cette scène, elle est folle, parce que dès qu'il voit qu'il s'est coupé, il la montre tout de suite, comme ça, et il joue avec sa main et tout. Et je me suis dit, Brad Pitt, il aurait fait un truc beaucoup plus discret, où il aurait caché sa main.
Il l'aurait mis dans sa poche.
Ouais, tu vois, et je me disais, cet exemple-là décrit bien DiCaprio, de, il se coupe la main, il va la montrer comme ça à tout le monde. Et,
mais déjà, quand j'étais sorti de la salle, j'avais été beaucoup plus marqué par la prestation de Brad Pitt que par celle de DiCaprio. J'avais trouvé Brad Pitt incroyable de charisme et de prestance et de puissance dans ce film.
C'est vrai.
Et
les scènes avec son Yinche là dans sa caravane, c'est fou.
Mais il dégage tellement un truc. Vraiment, ce film, enfin là, ça fait quoi, 2 ans qu'il est sorti? 2-3 ans?
Un peu plus, non.
Ouais, avant le Covid, quoi.
Mais plus les mois passent, plus je trouve culte ce film.
Ah bon, putain, moi j'ai pas aimé.
Ah ouais? Je trouve qu'il a vraiment marqué une époque, je trouve. Ouais, donc ça va pas aimé. Pour quelle raison t'as pas aimé ce film?
Écoute, je l'ai vu sans sous-titres.
Ouais.
T'as un gros problème.
Voilà. Non, j'ai compris, mais je sais pas, moi, ça m'a, en fait, voilà, horrible, désolé, on est désolé pour Tarantino, mais je voulais un film de Tarantino. J'étais dans une période de ma vie où je voulais voir des gens qui se tirent beaucoup dessus.
Ah,
c'est arrivé très, 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 très tard.
Ah oui, d'accord, tu parles.
Voilà, c'est un truc très, très con de, bah, frère, ouais, t'es Tarantino, fait des films de Tarantino.
C'est très bavard, quoi, mais, comme d'hab, mais.
C'est très verbeux, mais c'est un moment excité. C'est un moment excité.
Après, il y a pas mal de gens qui ont vu ce film et qui ont attendu quelques semaines et au final il y avait un peu un truc comme ça qui germait où ils disaient, ah, c'est pas si mal finalement ce film, plus j'y repense et plus c'est cool, quoi.
Mais c'est marrant, c'est tout ce débat qu'il y avait eu sur réécrire l'histoire.
Ça,
ouais,
bien,
que
ça.
C'est ouais, j'ai trouvé ce débat trop intéressant qu'il avait déjà eu avec Inglourious Basterds avec la fin.
J'avais adoré ça.
Et je trouve ce débat trop intéressant de est-ce qu'on peut se faire ça, est-ce que,
pourquoi toi t'avais un avis là-dessus, genre t'étais contre pour...
Non pas du tout, mais j'ai adoré le débat de voir, mais c'est compliqué de réécrire l'histoire alors que les gens sont morts et de, enfin il y a un truc très particulier de qu'est-ce que les gens, les familles des victimes pensent de ça? Qu'est-ce que, je trouvais ça trop intéressant. Mais j'ai pas d'avis pour le coup. Je fais pas partie des gens qui...
Moi, j'avoue, je me rappelle quand, Inglourious Basterds, j'ai vu au cinéma. Quand, on peut spoiler vite fait là? Non, c'est bon, tout le monde l'a
vu. Vas-y, ça fait longtemps qu'il est sorti.
Quand ils ont buté Hitler, je me suis levé dans la salle, mec. Je m'attendais pas à ça, en fait. J'étais comme un ouf.
T'étais outré?
Ben non, je me suis dit ça. Ouais, c'est genre,
mais moi, j'ai eu une honte.
Je me suis dit, le gars qui a les meilleures idées, une telle liberté, tu vois, avec un film qui est aussi important et tout ça, ouais, tu vois, tu fais un truc qui est, tu sais, à un moment, tu prends une telle liberté avec l'histoire, t'as une telle vengeance qui est presque jouissive avec, tu sais, le feu, le vide, tu sais, le rire et tout, t'es là, genre, mais moi, j'étais, waouh!
Et dans mes souvenirs, je m'en souviens, je m'y attendais un petit peu parce qu'il y a, un malin plaisir à défoncer les nazis, donc je m'étais dit, bon, bah, le boss final, comme un jeu vidéo, le boss final, c'est Hitler, quoi, à défoncer, tu
vois. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que ça nique autant l'histoire, tu vois. Ça te dit, genre, c'est un commando, c'est les 12 salopards, bon, ils butent des nazis, ok, à la fin il y en a 3 qui vont rester sur les 12 parce qu'ils vont tous mourir et puis au final ils ont tué quelques nazis, tu vois. Mais de là à cramer Hitler en plus dans un cinéma, tu vois, je trouvais que tout le symbole, il était, c'est là où je me suis dit Tarantino, il a, ça y est, son cinéma il a changé, il a envie de proposer un truc qui est un peu plus politique, je m'entends, hein, je mets des gros guillemets, on l'entend pas, mais
c'est très politique de dire Hitler c'est pas un bon gars.
Non mais de le buter dans un cinéma, dans un délire d'une vengeance pour représenter, tu vois, tout un peuple en plus. Enfin, il y a plein de trucs qui sont intéressants là-dedans. Après, il y a des choses qui sont toujours pas défendables, mais ce truc-là, comme cette histoire de revoir toute l'histoire sur le meurtre à la fin de Once Upon a Time in Hollywood, ou même de Django en vrai sur la fin et tout, il y a des trucs, je trouve que c'est intéressant comment il crée du cinéma sous une sorte de vengeance avec l'histoire et avec la vie en général, tu vois. Je sais pas, j'aime bien ça. C'est ce que j'aime encore bien dans le cinéma de Tarantino, là où il y a des trucs où je trouve que ça commence à être des grosses
ficelles. Tu vois, on parlait de clivant, Tarantino, bien clivant.
Ouais. Bah, de plus en plus. Je pense qu'avant, non, tout le monde était fan, tu vois.
Mais quelqu'un qui est pas clivant, Omar Sy, je viens d'y penser. Qui déteste Omar Sy?
Bah, en France, ouais, c'est numéro 1.
Il a commencé à être dans la team, tu sais, maintenant, qui s'est, entre guillemets, politisé, enfin, qu'il a exprimé.
Ouais, du coup, sur Twitter.
Maintenant, il y a des teams. Oui, c'est ça qui est horrible.
C'est ce que tu veux dire.
C'est que quand t'es un acteur, si tu prends une part politique, après, il y a des gens pour et des gens contre, ce qui est un peu débile, mais.
Alors, Morgan Freeman, qui est l'équivalent culinaire de pâte au beurre doux.
J'ai cru que t'allais dire une dinguerie. J'ai cru que t'allais dire l'équivalent d'un homard. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte?
Morgan Freeman.
Le raccourci.
Morgan Freeman, on l'adore. Il est quand même assez perçu comme un acteur qui a eu souvent beaucoup de second rôle. On voit souvent comme un second rôle Morgan Freeman. Qu'est-ce que ça a donné quand il a eu des premiers rôles, Aurélien, Morgan Freeman?
Eh bien, déjà, est-ce que vous savez à peu près dans combien de films a joué Morgan Freeman? J'ai appris ça, je me suis dit, waouh, c'est un délire.
93.
162, les mecs.
Waouh!
Le mec a tourné dans 162.
En même temps,
films.
Il tourne 3 jours à chaque fois sur chaque film. Donc
ouais, c'est ça, vu qu'il est beaucoup dans les séries. Wow. Et en fait, on connaît très peu, mais il a eu aussi toute une carrière de petits films avant le début des années 90, là où on commence à le connaître. Donc il a eu déjà au moins une vingtaine de films, parce qu'en fait, on connaît Morgan Freeman, il est déjà assez vieux en fait.
Mais qui sont pas vraiment sortis, tu veux dire, en France?
Si, ils sont sortis, mais il a des petits rôles, tu vois.
Il a
des
films été vieux, non? Quelqu'un connaît la tête de Morgan Freeman, John?
C'est ce que je me dis. Je me dis qu'il a toujours été dans des rôles où c'était homme adulte quand même.
J'avais sorti un tab sur Morgan Freeman et les premières photos jeunes qui arrivent, c'est à partir de l'armée. Donc c'est-à-dire qu'ado, on peut pas voir, quoi, tu vois. Et déjà à l'armée, il a un peu sa tête de maintenant, donc tu vois. Et c'est vrai, est-ce qu'il
ça
existe jeune, Morgan Freeman?
C'est fou
pas.
Ça. Il est peut-être né comme ça, le mec.
Il est né soldat.
Et alors, pour le coup, Morgan Freeman, il a joué un flic, comme dans Seven, plusieurs fois, dans plusieurs films. On va en reparler. Mais il a aussi été, pour le coup, bagnard, prof, tueur, braqueur, chauffeur, ancien boxeur, un voisin, plusieurs présidents des USA. C'est
un
quand
voisin.
Même pas mal.
Le mec a été dans quoi? Dans quel film?
Le mec a été plusieurs fois président des USA. Dans la fameuse série, là, tu sais, White House Got Down, Olympus Has Down, machin. C'est toujours lui le président. Dans les trois films.
Parce qu'il y a des posts comme ça pour, par exemple, dans ta fiche Wikipédia, quand tu veux être acteur et qu'il y a marqué juste un badaud. C'est que t'as pas trop percé.
C'est vrai.
T'as pas trop percé.
Alors que, il est aussi Nelson Mandela aussi dans un film, quand même. Donc, ouais. Président d'un autre grand pays et puis un personnage incroyable. Et comme a dit Panayotis, il est aussi Dieu deux fois, quand même, ce qui est plutôt pas mal.
Deux fois?
Parce qu'il y a eu deux films. Il y a eu Bruce Tout-Puissant et Evan Tout-Puissant, que tout le monde a oublié, ce qui était beaucoup moins bien. Oh. Mais il joue aussi
c'est
Dieu dedans.
Evan Tout-Puissant?
Ouais, avec.
C'est qui joue dedans?
Steve Carell.
Ah oui.
Ah ouais.
Mais pas bien du, pas bien. Enfin, rien à voir avec Steve. Avec,
et ils l'ont fait juste parce qu'il y a eu la fameuse scène où il écrit des trucs au prompteur et le gars dit les trucs et ça a tellement pris qu'ils ont voulu faire.
C'est ça. Ils ont fait une suite et au final, ça a pas marché. Mais il y a quand même Morgan Freeman en Dieu. Et bien sûr, c'est aussi la voix off numéro 1 et donc le narrateur de plein de films. Donc c'est pour ça qu'il est 162 aussi, c'est qu'il y a des fois où c'est juste la voix off.
En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il a une voix off, sa propre voix qui est culte. Mais en général, ses doublages français sont très bien réussis aussi.
C'est vrai. Tout à fait. Ils ont réussi à trouver une voix qui est un peu dans le même esprit, donc c'est plutôt fort. Est-ce que vous avez un rôle préféré de Morgan Freeman?
Bon, on pense comme ça à Shawshank Redemption, mais en premier lieu.
Les évadés?
Ouais, les évadés. Mais dans Seven, il est bon.
Son rôle dans Seven, je l'adorais parce que je me souviens d'un détail que j'ai grave retenu, c'est qu'il s'endormait avec son métronome.
Ouais.
Et comme à l'époque, je faisais de la batterie, je me disais, c'est chouf. Il s'endort avec son métronome, comment il fait? J'ai peut-être essayé une fois, je crois, mais c'est nul.
C'est dur.
Ça marche pas, ouais.
Est-ce qu'il veut la scène où il est chez. D'ailleurs, c'est marrant, mais Brad Pitt, son perso s'appelle David. C'est volontairement. Fincher a appelé son gars David. Comment ça s'est passé? À quel moment
peut-être.
Il a validé?
C'est bizarre. J'ai pas l'info.
Brad Pitt, il est chez David avec sa femme. Je me souviens plus de son
Gwyneth
prénom. Mais je me souviens plus de son prénom dans le film. Et tu sais, il y a le métro qui passe et tout.
Ah
et
ouais.
Il se tape une gigabarre. Alors qu'eux, ils sont au bout de leur life, ils tapent une gigabarre. Et c'est là où j'ai trop kiffé, j'ai vraiment switché, j'ai commencé à bien kiffer le perso.
Et moi, ce que j'aime chez Morgan Freeman, c'est son côté... je trouve qu'il a un côté rassurant à chaque fois dans son jeu.
C'est vrai.
Tu vois, il a toujours un côté un peu le grand-père idéal que t'aurais aimé avoir. Quoi, tu
fais partie des peu de comédiens que t'imagines Ken.
C'est vrai qu'il est toujours à l'ancienne. On se dit, c'est le daron de quelqu'un, c'est le grand-père de quelqu'un.
T'arrives pas à imaginer Ken. Regardez, fermez les yeux.
Ah, moi j'étais sur une grosse levrette là, personnellement.
Ah bon?
Ouais. Grosse levrette de Morgan Freeman.
C'est fou,
je comprends. Non, alors j'ai dit, il a joué deux fois
Dieu quand même.
Alors faut quand même savoir que Morgan Freeman, on l'adore certes, mais il a quand même des petites.
Casseroles.
Des petites casseroles Me Too quand même.
Il a des petites casseroles
Me Too. Genre en gros, il était hyper lourd avec des assistantes sur certains tournages. Quand elle arrive en jupe, ta jupe hyper lourd, il en a pas en parler, tu vois, il est un peu tactile, tu vois.
Ça, c'est un peu le Pierre Ménès du cinéma, c'est
un petit peu, tu vois. Et du coup, il a fait ses excuses, je crois. Il y a pas longtemps, c'est ça, Aurélien?
Je crois, ouais.
Dans mes souvenirs.
Il y a eu tout un truc, même je crois que
je vois Pana qui me fixe, qui est un peu sous le choc parce que tu vois, finalement, tu imagines Ken maintenant, Morgan Freeman.
Ouais, mais pas de manière cool.
Un horrible type.
Il était là, c'est vraiment le grand-père idéal.
J'ai dit ça avant de me rappeler de. Non, mais les rôles qu'il joue au cinéma.
C'est vrai. Il a fait ses excuses avec sa voix off ou pas?
Tout de suite, ça crée un.
Ça peut aider.
Un suppléant. Et pour le coup, c'est vrai qu'il a fait peu de premiers rôles. Ouais. Souvent, il est en équipe, souvent en duo, comme on en a parlé dans des films à la Guillaume. Mais il a quand même eu plusieurs premiers rôles, notamment après Seven, il y a eu comme un gouffre où il a joué un flic qui suit un tueur en série. Il y en a eu deux, je ne sais pas si vous les avez vus, il y a Le Masque de l'araignée et Le Collectionneur, qui sont deux films vraiment pas top, on dirait des directs ou DVD de fou, dans lequel il joue exactement le même personnage, c'est-à-dire un flic qui essaye de trouver comment choper un serial killer.
Okay.
Donc ça n'a pas trop marché, forcément. En vrai, c'est...
C'était un peu ses premiers tests en tant que premier rôle, ces
films-là. Ouais. Et il était toujours accompagné de, comme d'hab, et c'est un duo de policiers. Donc,
pas Sandra Bullock, non ?
Il y en a un avec Sandra Bullock, je crois, et il y en a un autre avec une autre actrice dont j'ai oublié le nom, mais à chaque fois, il est en duo, vraiment, c'est rare qu'il soit vraiment premier sur la tête d'affiche. Par contre, il a eu deux films où il est vraiment uniquement sur l'affiche. C'est un film qui s'appelle L'Incroyable Défi, Lean on Me, qui est sorti en 1988, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez déjà vu ce film ?
Non, jamais.
C'est hyper bien, c'est un film où, en gros, il joue le directeur d'une école qui est... un peu en galère. Pour résumer, c'est un peu esprit rebelle, sauf que c'est le directeur de l'école et il veut montrer que des gens un peu des quartiers machin peuvent avec de la discipline créer un vrai truc et se mettre dans quelque chose de bien, tu vois. Et il joue le directeur de l'école ou le prof un peu ultime et tout, et c'est là où il s'est vraiment fait connaître. Et par contre, il y a vraiment donc une grande traversée du désert, et la prochaine fois où on le voit vraiment dans un film où il est en tête d'affiche, sur l'affiche tout seul, c'est Un été magique de Rob Reiner. Est-ce que vous avez déjà vu ce film ?
Non, jamais.
Il y a que moi qui ai vu ce film, je pense. C'est là où il joue un voisin, le fameux voisin, où il est un peu accro à la bouteille et paraplégique, ancien auteur.
Il voulait un Oscar.
Je crois. Sauf que c'était...
Tu sais, quand tu dis ça, tu dis, mon Oscar, c'est maintenant.
C'est une petite histoire. Paraplégique, bourré, voisin.
C'est une petite histoire à la Rob Reiner, où, genre, vraiment, pour le coup, il rencontre une famille qui habite à côté, c'est le grincheux, tout ça, tu vois. Et au final, il se passe des trucs, et ça se passe sur une île, il y a tout un univers et tout. Moi, j'aime bien. Bon, après, c'est un direct tout DVD de fou, ça n'a pas marché. C'est sorti en 2012, je crois, et personne n'a entendu parler, donc ça veut dire que tout le monde s'en fout. Et après, par contre, il est très connu pour ses duos quand il est à l'affiche avec d'autres personnalités. C'est le cas, par exemple, de Miss Daisy et son chauffeur.
Bien sûr.
Où on l'appelle même pas de son nom, il s'appelle juste son chauffeur. C'est sympa. Mais qui lui a valu quand même beaucoup de trucs. On a parlé des Évadés.
Sa première nomination aux Oscars, Miss Daisy.
Tout à fait. Après, il y a bien sûr les Évadés, avec Tim Robbins, mais où on peut dire quand même que c'est presque un rôle principal, parce que il a pas mal de scènes où il est tout seul, où on présente son personnage. Et
pour moi, c'est vraiment un duo,
C'est vraiment un duo avec vraiment un début. Pareil pour Seven, où il y a quand même plein de séquences où il est solo, sans Brad Pitt, et il a aussi sa propre histoire. Comme t'as dit, il y a le truc du métronome. Il y a tout un truc avec, sur sa vie personnelle qui est en dehors de l'histoire de Brad Pitt. Bon, pour moi, ça reste un rôle principal. Il y a un film avec Jack Nicholson qui sort en 2007 qui s'appelle, sans plus attendre en français, qui s'appelle The Bucket List. Ouais. Et là, c'est le moment où vraiment il commence à faire des films sur le fait qu'il est vieux. C'est-à-dire que dans ce film, il est avec Jack Nicholson, ils sont tous les deux en phase terminale de cancer. Et Jack Nicholson est archi blindax.
C'est plutôt une comédie, non, ça ?
Ouais, parce que Jack Nicholson est archi blindax, et il voit à côté de lui dans l'hôpital Morgan Freeman faire une liste des choses qu'il aimerait faire avant de mourir. Ça. Et Jack Nicholson lui dit « Vas-y, ta liste, elle est pétée, c'est genre rire aux larmes, faire un truc cool pour quelqu'un que je connais pas. » Il fait « Vas-y, c'est pourri, viens. »
Offrir un ballon à un enfant. «
Viens, on met saut en parachute et tout. » Et pour le coup, Jack Nicholson, il met que des dingueries, et ils partent un an à faire que des dingueries en pensant qu'ils vont mourir après, tu vois. Et donc la story est cool. Bah après, c'est pareil, c'est encore un film de Rob Reiner, mon réalisateur préféré, que je regarde assez régulièrement, mais tout le monde s'en fout. Mais ça va lancer un peu tout un délire autour de Morgan Freeman vieux. Et là, il y a tout un suivi de films qui va se faire en duo ou en trio dans les années 2010. Donc il y aura notamment Going in Style avec Michael Caine et Alan Arkin. J'ai appris que ce film était fait par Zach Braff. C'est fou.
Ah ouais, ouais.
Last Vegas avec quand même qui est un peu le cœur des hommes à Las Vegas, dans lequel il y a De Niro, Kevin Kline, Freeman et donc Michael Douglas, ce qui est assez ouf. Et il y a pas longtemps il en a fait un aussi dans le même genre avec Tommy Lee Jones, dans des mecs oui. qui pètent une durite et ils décident de partir sur les routes.
C'est vrai.
Voilà. Donc voilà, c'est difficile de vraiment cerner la carrière de Morgan Freeman, parce qu'il est tout le temps là. Il a réussi à jouer des rôles quand même assez différents et à chaque fois il est important dans l'histoire, il est souvent dans les têtes d'affiche, mais il est jamais tout seul sur le rôle. Donc c'est compliqué de vraiment il est insaisissable, j'ai envie de dire.
Mmh. Et c'est exactement ce que tu dis, et quand tu le dis, tu on pense pas à par exemple La Traversée du désert de Morgan Freeman ou c'est direct ou DVD ou tous ces trucs, tu vois.
Bah ouais.
Quand on pense à Morgan Freeman, on dit ouais, c'est un mec qui fait des grands films. Tu t'imagines pas que à Hollywood, il y a des fois où son téléphone il sonne pas.
Ouais, après il a, après bah, il a joué.
Je pense que tous les acteurs, c'est un peu le cas, par des exceptions comme DiCaprio ou ce genre d'acteur, mais
ils ont pas le nerf, ouais, aussi, tu vois, genre, Morgan Freeman, maintenant, c'est,
ils jouent à Darwin. Pacino, De Niro, tout ça, tu sais, tous les anciens, ils ont pas vraiment ce genre de truc, tu vois.
Ah si, De Niro, Pacino,
De Niro, enfin, mec.
Bah, ils ont une traversée du désert de ouf, hein.
Non, mais Morgan Freeman, non? Je pense qu'ils ont pas,
ils choisissent.
Ouais, ils choisissent. Je pense que De Niro, tous les jours, il y a des gens qui lui proposent des films. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Après,
Moi, je pense De Niro, tous les jours, on lui propose de faire Casino, Les Affranchis, Un gangster.
Un court-métrage, Étudiant de la Fémis.
Et lui dit, je veux faire un papy bourré avec Zac Efron sur une plage.
Je veux faire le stagiaire.
Ouais, voilà. Et encore, c'est pas le pire. C'est pas,
il est pas mal, le stagiaire, ouais.
Ah, pardon.
Ah, vas-y, vas-y.
Je vais dire des comédiens qu'il faudrait peut-être qu'ils meurent pour leur carrière.
Oh putain, ah ouais, c'est le tueur en série qui revient.
Qu'on rentre là-dedans.
Ok.
Allez,
De Niro, je pense, dans pas longtemps, là.
Ah ouais?
Des mauvais choix dernièrement, non?
Non, pas tant.
C'est quoi ces derniers films? Là, il est dans une pub pour une voiture en ce moment à la télé.
Ouais, la Kia.
Ouais, la Kia.
Peut-être c'est pas bien, c'est pas comme des scénario, mais...
Non, c'est vrai.
DiCaprio aussi. Pour la Fiat.
Ah oui, ouais. Électrique.
DiCaprio et De Niro.
Ah oui, d'accord. Mais en fait, je comprenais pas vraiment le jeu, parce que je pensais que c'était les acteurs, vous pensez qu'ils sont morts, mais en fait, ils sont pas morts.
Ah, non, j'allais dire ceux qui devraient mourir pour sauvegarder leur carrière.
C'est un jeu terrible.
Parce que récemment,
Non, personne veut y jouer.
Non, parce que récemment, j'ai appris que Gorbatchev était en vie. Persuadé qu'il était mort, Gorbatchev.
C'est pas un acteur.
C'est pas un acteur, mais c'est un politique. Mais ouais, Gorbatchev est en vie, voilà.
C'est vrai.
Édouard Balladur est en vie.
Moi, j'ai eu ça. Ouais, j'ai eu ça avec Balladur, putain.
Non, j'ai pas. Giscard, il vient de mourir.
Non, il est mort, Giscard.
Ouais, il est mort, mais il est mort. Mais quand il est mort, j'ai fait, ah bon?
Ouais.
Balladur, je pensais.
J'ai eu ça avec qui, putain, il y a pas longtemps, j'ai eu ça avec quelqu'un, je me suis dit, mais non. Avec Coppola.
Ah bon?
Je croyais qu'il était mort.
Ah ouais. Coppola. Bah, je sais pas, je me disais, c'est un des plus grands réalisateurs, pourquoi il fait plus de films?
Ouais,
c'est vrai. Elle a eu un petit
travail. J'avais fait un petit lien. Il habite, dans le désert en ce moment. Il y habite, il a un petit pied à terre.
Bah, lui, il y a eu Apocalypse Now, puis après, bon, il a eu des problèmes.
Mais c'était que tu avais cité un mec de 37 ans.
Quand tu parles de. Vas-y, tu peux continuer ton jeu parce que j'ai pas d'inspi là.
Bah non, mais je réfléchis à des gens.
Qui doivent mourir, par exemple. Dis quelqu'un qui doit mourir là, bientôt.
Non, si j'étais un agent, si j'étais un conseiller stratégique, je dirais, mec, tu peux devenir une légende.
Non, d'arrêter
si
de tourner.
Si maintenant t'arrêtes.
Ouais, arrêter
ou d'arrêter de tourner. Ouais,
ouais. Voilà. Faire prendre sa carrière et dire.
Mais mourir,
c'est tous mes films.
Moi, je pense qu'il faut démystifier la mort.
Ouais,
c'est un autre débat, hein.
On peut y aller aussi.
Après, dans les années 90, Daniel Day-Lewis a dit j'arrête le cinéma, alors qu'il était assez jeune, pour devenir cordonnier. Ça a du panache quand même.
Mais il a pas arrêté.
Il l'a fait cordonnier.
Il l'a fait cordonnier pendant 2 ans.
Ouais.
Et un jour, Martin Scorsese cogne à la porte de sa petite cordonnerie.
J'adore ça.
Il a fait comme ça. Il est arrivé et il lui a dit, écoute, alors, je veux que tu reprennes du service parce que j'ai un film à proposer qui s'appelle Gangs of New York. Et c'est comme ça qu'il a repris le cinéma. Mais là, Daniel Day-Lewis,
il a fait des décors.
Tu te rappelles, c'était la même histoire avec Joe Pesci. Il avait arrêté, il vivait au-dessus de son resto, il s'en foutait, il voulait plus faire de cinoche, et c'est Scorsese qui lui avait dit si, viens.
Bah, c'est une bonne
On l'avait parlé là.
C'est comme ça que je l'ai appris, on l'avait dit dans l'émission.
C'était un chanteur,
Peut-être que Scorsese juste aime toquer aux portes.
Ouais, c'est son truc,
sa grande passion.
Tiens, je vais aller chercher lui là-bas et tout.
Il est trop petit pour la sonnette.
Moi, j'avoue.
Alors, on va jouer à un petit jeu.
Ah!
Car figurez-vous, t'as fait un jeu, Guillaume, tout à l'heure, mais vraiment, j'ai un petit jeu quand même. Parce que figurez-vous que dans l'histoire du cinéma, le chiffre 7 est l'un des chiffres les plus présents dans les titres de films. J'en ai compté en tout 94. C'est quand même assez incroyable. 94 films avec le chiffre 7.
Ça fait beaucoup de questions.
Alors,
94.
Alors, je vais vous donner quelques indices. Et le premier qui me donne le titre du film avec le chiffre 7 à l'intérieur gagne le point.
Allez.
Mais ça va aller très vite. C'est au niveau du cerveau. Attention. Il y a 7 films à trouver.
Très bien.
Voilà. Je suis un classique du cinéma sorti en 1937 à la question pour un champion un peu, qui continue encore aujourd'hui d'émerveiller les enfants. Je suis à la base un conte allemand écrit en 1812 par les frères Grimm.
Et cette merveille du monde?
Non. Devenu un film Disney, je présente un groupe de 7 personnes.
Ah, les 7 nains!
Oui, je sais, j'ai les 7 nains,
oui,
bravo.
Oui, oui, oui.
Vous avez capté le jeu, c'est bon?
Ah, les 7 nains!
Bah oui, les 7 nains, il y a le chiffre 7, Guy. Tout comme 7.
Un point pour Guillaume.
Un point pour Guillaume, bravo.
Maintenant, on imagine un crossover des deux.
Oui.
Avec les nains.
Dans Seven,
qui font bouffer des spaghettis à un gros monsieur jusqu'à ce qu'il décède.
Horrible. Et Blanche-Neige qui vient, ouh, salut, ça va?
Deuxième question, je suis à un film sorti en 1954, film japonais réalisé par Akira.
Les Sept Samouraïs.
Oh, les Sept Samouraïs,
ça va vite, c'est très beau.
Oh, ça va très très vite, les Sept Samouraïs. Considéré comme un classique, je raconte l'histoire d'un village de paysans qui recrute 7 combattants pour lutter contre des bandits qui ravagent les campagnes environnantes, les Sept Samouraïs.
À base, c'était 12.
Ah, mais attention. Ouais. Mais il y a 12 salopards. C'est pour ça.
Et 12 samouraïs.
Merde. Ah, c'est vrai,
on avait qu'il y avait le Covid.
Je suis un film réalisé en 1997 par un Français, figurez-vous. Il raconte l'histoire d'un alpiniste autrichien qui, en 1939, accepte un financement.
Ah, 7 ans au Tibet.
Oh, 7 ans au Tibet, c'est bon.
Jean-Jacques Adot.
Le chiffre 7, bravo, 7 ans au Tibet. Ah, Guillaume est déçu. 7 ans au Tibet, ça fait 2-1 pour Aurélien, c'est ça? Ouais. Allez. Exactement, film de Jean-Jacques Hano, qui compte encore une fois Brad Pitt, deux films avec le chiffre 7. C'est quand même incroyable.
BG, presque la même année en plus.
Ouais, c'est vrai. Je suis un film de 2008 réalisé par un Italien, Gabriel Muccino. Je raconte l'histoire d'un homme hanté par un accident de voiture qu'il a causé, accident qui a provoqué la mort de sa femme. Will Smith est le héros de ce film.
Ah, Cette vie.
Oh, Cette vie. Ouais. Bah, putain, qui a vu Cette vie?
C'est Will Smith.
Nope.
Je l'ai pas vu.
Film déprimant.
C'est pas ouf. L'autre, il est mieux là, à la recherche du bonheur.
Ouais, lui, je l'ai vu.
Je préfère celui-là, parce qu'il y a le Rubik's Cube.
Mais c'est marrant parce que les gens, à chaque fois, associent ces deux films-là.
Ils sont sortis presque en même temps, il fait la même gueule sur la pochette.
Ouais, c'est vrai.
Franchement, non?
Oui, t'as pas tout à fait tort. Je suis un film français sorti en 1973, comédie culte qui passe chaque année à la télé. Réalisé par Robert Lamoureux, je compte à mon casting Pierre Mondi, Jean Lefebvre ou encore Aldo Machin.
La 7ème compagnie.
Oh, mais j'arrive pas, putain. Pourquoi j'arrive pas?
La 7ème bloquée
dans ma tête.
Il a jamais été aussi fort que sur ce quiz.
C'est un peu. J'aime le chiffre 7.
Il a jamais été aussi fort que sur ce quiz.
C'est vrai, c'est un petit, je suis nul.
Je suis un film sorti en 1960, réalisé par John Sturges, grandement inspiré des 7 samouraïs.
L'intrigue. 7 mercenaires.
Oh là là, bon, non, il est en roue libre, incroyable.
Là, on est dans mes trucs, là.
Les 7 mercenaires. Inspiré des 7 samouraïs, les 7 mercenaires.
Bien sûr, bien sûr.
Avec Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen ou encore Shell Bronson. Écoute, il en reste une, donc ça va être le qui tout double.
Qui tout double.
Ah, putain,
que je suis très mauvais.
Et là, je vais perdre. Voilà.
Panayotis, tu peux gagner sur la prochaine.
Non, mais ça n'arrivera pas. Je suis nul pour faire des connexions dans mon cerveau de manière rapide.
Ça peut arriver. Je suis un film sorti en 1957, véritable classique et chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Je suis un film qui traite de la mort et qui utilise
The Seven Seals.
Oh, là,
Bergman.
Bergman, bien sûr, le septième saut. Qui utilise la métaphore du jeu d'échecs pour exprimer mon propos réalisé par Ivan Bergman.
Pour absolument aucune raison, j'avais le film 127
avec,
heures dans ma tête.
Max von Sydow.
Ben non, mais
ce n'est jamais venu.
On aurait pu. Bravo, Aurélien. Bravo.
Bah,
il a jamais été aussi fort que sur ce film.
T'as tout gagné en fait.
Sauf la première, je crois.
C'est un perfect.
Ouais. J'avais pas compris au début.
Moi, j'ai eu les 7 nains, c'est très triste.
C'est vrai.
Il y a une vanne de Bigard avec le chiffre 7, que vous connaissez.
Ah non, allez.
Vas-y,
c'est dans le thème de Seven, hein, vas-y.
Allez. Un mec, il se lève un matin.
Est-ce qu'il va être crade?
Non. Il se lève un matin et il est 7h07. Le mec, d'habitude, il se lève à 8h. Et on dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Il va dans le salon, il allume la télé, c'est la 7ème chaîne. Mais la radio. C'est la chaîne 7.
C'est déjà la fin de la blague.
Okay.
Ça fonctionne pas dès le début.
Il va au bureau. Il arrive à 7 minutes de retard. Il se pose dans son bureau. Il ouvre ses mails. 7 mails.
C'est fou, quoi. Il a pas de copain.
Non, mais il va manger. Il est midi 7. Il commande. Oh. Il va te commander son truc. Ça lui coûte 7,07 €. Oh. Il pète un câble. Il dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille jouer au... Comment ça s'appelle les trucs des chevaux, là?
Ouais.
Cette vanne est si approximative.
Le tiercé.
Le tiercé, faut que j'aille jouer au tiercé, tu vois.
Le truc des chevaux, là.
Il y va, il prend tous ses sous et il met sur le 7ème cheval. Et il arrive 7ème.
Voilà. Ah bah voilà.
Fan de cette blague. Et là, il y a Morgan Freeman qui arrive.
Est-ce que ce serait pas la blague la plus fine de Billard?
Eh bah écoute, quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais non, c'est pas lui.
C'est Billard. C'est vrai que c'est ça.
C'est Seinfeld.
Merci d'être entré dans le jeu de Seven. C'était une très belle contribution, tu vois. Tu viens d'apporter, c'est pas mal.
Toujours là pour ça.
On aurait pu également citer Cléo de 5 à 7, réalisé par Agnès Varda.
Ah.
7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe, réalisé par Billy Wilder.
J'y ai pensé à celui-là.
Ou encore Seven Sisters, La 7ème Croix, Les 7 péchés capitaux de Rossellini, Le 7ème Voyage de Sinbad ou encore Le 7ème Juré, pour ne citer que parmi les 94 existants.
C'est fou, hein.
Voilà. Et un des plus connus, forcément, Seven. Ça évoque quoi pour vous, David Fincher? Parce que, Alors, je rappelle qu'il a sorti 11 films dans sa carrière. Alien 3, Seven, The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac, L'étrange histoire de Benjamin Button, The Social Network, Millennium, Gone Girl et tout récemment Manque, sorti sur Netflix. Mm. Déjà, on peut se rendre compte que sa filmographie ne comporte pratiquement aucune fausse note. C'est que des films qui...
Manque, on le rentre dans quoi, Manque? Je l'ai pas vu. Hein.
Documentaire.
Documentaire?
Non, je rigole. Non, c'est un super film.
Manque, c'est un super film. C'est un des meilleurs films de l'année dernière pour moi.
Ah, okay, super.
Et finalement, c'est assez rare d'avoir un réalisateur qui, dans sa filmographie, a pratiquement un sans faute au niveau des films. Aurélien, pour toi, Fincher, ça t'évoque quoi, ce réalisateur?
Bah, ça, en vrai, moi, c'est vraiment, pour moi, le réalisateur de ma génération, tu vois. Genre, c'est comme Tarantino, les mecs, je les ai découverts quand j'avais 15 ans. Et ouais, pour le coup, j'ai grandi avec eux, en fait, à chaque fois, quand c'est sorti au ciné, je voyais un peu, ça allait avec. J'essayais de comprendre dans quel état d'esprit ils allaient, pourquoi ils allaient là-bas et tout ça, l'énergie, l'histoire et tout ça. Donc j'ai aimé toutes les périodes. Je trouve que là, sur la fin, on sent qu'il est peut-être en train de se chercher, ça devient un peu plus...
Cérébral.
Ouais, voilà, c'est un peu plus, j'allais dire chiant, mais je veux dire, dans le bon sens du terme, tu vois, mais un peu comme Tarantino en vrai. Même si c'est des réalisateurs qui ont absolument rien à voir. Mais par contre, tous les débuts, tu vois, là, quand t'as recité, pour moi, c'est des classiques. Parce qu'en plus, il avait ce truc de vraiment vouloir faire des films où à la fin, t'es choqué. Tu vois, genre The Game, Fight Club, Panic Room, t'avais un truc où, tu sais, il se passait, souvent c'était dans des endroits assez clos d'ailleurs, ou avec des univers qui étaient assez claustrophobes, et il avait toujours ce truc où à la fin, c'était jamais ce que tu pensais qu'allait être à la fin du film en fait. Et ça, j'ai vraiment adoré, je pense qu'il l'a refait aussi avec Gone Girl, donc quand il le refait, tu vois, j'aime bien, et j'adore aussi Zodiac, tu vois, genre quand ça devient un truc... hyper long, avec énormément de détails. C'est là où je parle de documentaire, tu vois, c'est que je trouve que c'est très, très, très détaillé. Et donc là, tu perds quand même des gens, parce que pour le coup, bah, ça devient une œuvre de cinéma, mais presque trop pointue, tu vois. Enfin, il y a énormément de détails à l'intérieur, quoi. Bah,
moi, je pense que ça vient de... Justement, je disais tout à l'heure de son passé en tant que clipper, parce qu'il faisait des clips au début dans sa carrière. Il y avait du coup, il a gardé ce truc un peu... Tu vois, ce truc un peu esthétisé, tu vois, de l'image, etc.
Est-ce qu'il a fait des clips connus?
Ouais, il a fait...
J'ai fait la photo de mode aussi.
J'ai pas envie de dire de la merde, mais je crois qu'il a fait Madonna, YouTube et tout. Hein. Attends, je vais revoir parce que j'ai un con là. Et il a fait des gros trucs. Hein.
Et surtout, il y a une maîtrise de la technique. On sent que quand il fait ses films, tout est maîtrisé, quoi. Et j'avais lu un interview dans lequel un chef-op disait que il était un peu arrangé comme ça dans la catégorie des réalisateurs comme Kubrick où chaque détail est important. Tu vois, il refait les scènes plusieurs fois, etc. Et donc, il faut que vraiment tout soit ficelé.
Ouais, il a un peu des tocs, il a l'air d'avoir un...
Ouais, il est complètement toqué, le mec.
Mais Kondji le dit lui-même, qu'ils se sont embrouillés sur Panic Room, ils ont arrêté un plus ou moins de travail ensemble dans la foulée, parce que c'était impossible, il devenait trop chiant, il le dit lui-même. Hein.
Ouais.
On s'est beaucoup embrouillés, quoi, et on faisait trop les prises, il pétait des câbles, il était un peu plus autiste, quoi, dans son coin, il communiquait moins.
Bah, c'est aussi pour ça que pour Alien 3, son premier film, ça s'est mal passé, parce qu'on lui disait, faut faire ci, faut faire ça, il y avait plein de désaccords, et lui, il aimait être, tu vois... à l'orée d'un projet, de le maîtriser de A à Z. Toi qui as vu Pana, toi qui as vu Panic Room récemment, le style de Fincher, ça te parle? C'est un réalisateur que t'aimes bien?
Moi, ouais, j'adore Fincher. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est, il est pas, je le mets dans la, non, j'allais pas le mettre dans la, je mets dans la case des amis qui sont des énormes réalisateurs, mais que le grand public ne connaît pas tant que ça. J'en parle chez moi ou à ma famille qui connaît pas les films. Je dis à ma mère Fincher, elle saura pas qui c'est, alors que tous les films, elle pourra les avoir vus ou aimés. Et il a cette espèce de côté que j'aime bien aussi, de mec très geekos dans son coin, qui fait pas des grandes interviews à la Tarantino, qui est pas un personnage en soi.
C'est vrai.
Je trouve ça assez cool. Mais moi, surtout Fincher, pour moi, c'est toujours des plans clés. Tu vois, bah, Panic Room, là, l'énorme plan séquence, tu sais, où il passe à travers le truc de la cafetière.
C'était novateur à l'époque.
Ouais, non, mais je trouve il a toujours cette espèce d'identité très House of Cards, les moments où Francis Underwood, là, il a des longs plans, enfin, il y a des trucs très très forts. Je trouve qu'il a toujours un truc simple et fort à la fois. Il est pas très expressif, il est pas très démonstratif.
C'est archi léché.
Mais
par moment,
c'est ça, il l'est, mais c'est tellement léché que c'est fluide. Et je trouve que c'est ça, moi, pour moi, Fincher, en tout cas, je le résumerais comme ça, comme une espèce de grandiloquence très, très abordable et très, très si léché, en fait, que tu vas directement au centre de la chair.
D'ailleurs, récemment, peut-être que vous avez pu voir ces plans au drone assez impressionnants réalisés dans des salles de bowling ou de cinéma.
Ça a été pris sur un film, non? Ils n'ont pas fait venir les gars sur un film et tout.
Ça, je sais pas, mais en tout cas, tu parlais de cette fameuse scène dans Panic Room. Finalement, c'est comme s'il avait fait ce plan au drone avant tout le monde dans Panic Room.
Vous n'avez pas de drone à l'époque, les mecs.
C'était pas la même technique.
Et je trouve que ça n'a pas tant que ça vieilli, ce plan. Tu vois.
Non, c'est assez fou.
Mais après, aussi, Fincher, il nous a offert, pour ma part, deux énormes tartes. Donc la première, c'était Seven. Mais Fight Club. Fight Club, pour moi, c'était limite le film de ma génération. Quoi. Ouais, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Ouais. C'était incroyable, la fin est folle, la musique déjà est folle.
C'était les Pixies la fin, et
tout.
Putain.
Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y avait un truc où.
Et tu vois, ça peut paraître tout con, mais
archi sombre.
Parfois, il y a des petites astuces. Tu vois ça et tu dis, oh bah, je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois ça, par exemple, dans Fight Club, la fameuse séquence où on voit son salon avec le canapé, puis avec le prix IKEA qui apparaît, etc. Ouais, et tu sais, tu regardes ça, tu dis, bah, j'ai jamais vu ça avant. Tu vois.
Visuellement, c'était hyper technique. Et novateur, mais ça, il l'a fait souvent.
Ça pourrait être un clip, ça, limite, tu vois, cette séquence. Tu vois.
Mais on en parlait la dernière fois aussi. Il y a un film qui revient tout le temps, dont tout le monde parle, et pour le coup, je l'ai trouvé cool, mais ça m'a pas mis la tarte. C'était Social Network.
C'est incroyable. Ah, moi, c'est une des plus grosses tartes de sa filmographie.
J'ai pris une claque de ouf. Tout, en fait, je sais pas comment il a amené l'histoire. La musique, déjà, incroyable. C'est le moment où il commence à bosser avec Chris Nord et Atticus Ross.
Je sais pas, là, tout le monde est là, chef-d'œuvre absolu. Je l'ai vu 50 fois, la touche là. Ah ouais,
ouais. J'ai vu tellement de fois aussi.
Ah ouais. Moi, c'est vraiment le film. Je suis sorti du ciné et je me suis dit, genre, ça faisait 5 ans que j'avais pas vu un film comme ça au ciné.
Ah ouais, mais alors.
Je sais pas comment c'est écrit. Pareil, il y a encore ce truc d'une scène qu'on n'a jamais vue. La course en bateau, là, qui est en timelapse chelou. Tu sais, ça, au cinéma, on l'avait jamais vu à cette époque-là, tu vois. C'était à ce moment-là, ça sort en 2009.
Armie Hammer qui joue les deux jumeaux, là.
Ouais, et tu sais, ils font une course d'aviron.
Ouais.
Et toute la course d'aviron est filmée en timelapse, mais tu sais, avec. Moi, j'y connais rien en technique, donc je vais pas vous dire des trucs de ouf, mais visuellement, sortir ça dans un film, personne ne l'avait fait avant. Donc tout de suite, c'est joli. Et surtout, comment est montée l'histoire, en fait. Toi, tout, comment c'est joué, le fait que ça soit hyper froid. En plus, c'était hyper actuel. C'est-à-dire que ça sort, je crois, en 2009.
Ouais,
Facebook, c'est sorti 2 ans avant. Ça veut dire qu'ils sont, tu sais, c'est le moment où, tu sais, on parle à fond de, d'Apple, tout est très dans l'esprit de ce qui se passe en ce moment.
Non, mais sur le sujet, je comprends, mais sur le fait que ce soit une tarte, j'ai pas
ça a été une tarte d'un truc très humain. Ouais, la réelle, elle m'a chamboulé. Et le côté très naturel, en fait, de cette réelle. Ouais. Rien n'est poussif dans ce film, alors que l'histoire l'est. En soi, et j'ai adoré le côté plongé dans les affres humaines d'un mec en fait qui veut se venger de tout le monde et qui veut enculer le monde entier. Mmh. J'ai trouvé ça et surtout il le respecte, c'est ça que je trouvais ça fou. Ouais. Il respecte son personnage quand il le traite et ça j'ai trouvé ça incroyable. Et à chaque fois que je le vois, je sors de là en mode il faut arrêter les humains, il faut détruire l'humanité. En sortant de ce film, vraiment c'est un de mes films préférés de la filmographie de Fincher.
Bah, en vrai, ça parle grave des réseaux sociaux et en même temps tu mets en avant des acteurs qui étaient pas vraiment connus pour ça à l'époque, tu vois, Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, que personne ne connaissait dans ce type de rôle, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc hyper dramatique et en plus c'est un peu la presse zodiaque, tu vois, c'est le moment où il réalise pas les films de la même façon, je trouve. C'est moins spectaculaire. Mmh. C'est plus dans sa direction d'acteur et comment il amène sa caméra à ce que ce soit Shakespeare, tu vois. Moi, pour moi, c'est Shakespeare dans les réseaux sociaux. Social Network. Ouais, franchement, je suis sorti vraiment en mode méga claque. Après, je l'ai pas revu mille fois. Mais à l'époque, vraiment.
Aussi, le point commun avec les autres films, c'est qu'il traite souvent la solitude, l'enfermement, etc. Dans ce film, l'obsession aussi. Mais surtout, le bien et le mal.
Ouais.
Et c'est vrai que ça, il le traite bien dans Social Network, mais c'est vrai que moi, j'adore ce film, mais c'est vrai que je serais un peu comme Guillaume, il y en a beaucoup qui, même parfois, le mettent dans le classement genre le meilleur film des années, des années 2000.
Ah oui.
Je sais pas si je le mettrais premier des années 2000, mais dans beaucoup de classements, il est premier des années 2000, quoi.
Parce que je vois beaucoup de gens qui disent comme vous, quoi, genre, ouais, c'est une tarte absolue et tout.
Moi, ça m'a marqué de fou.
Quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, j'ai vu un grand film. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, j'ai vu un grand film.
Mais je pense que déjà, l'histoire est folle. Ouais. C'est ça qui est ouf, mais. Ah ouais, plus qu'un Fight Club.
Ouais, il m'a plus marqué qu'un Fight Club.
Ah non, moi, pas pareil. C'est parce que je suis plus vieux aussi, tu vois.
Mais c'est pas la même génération. Moi, je suis né en 98.
Fight Club, ça nous retourne.
Fight Club, il y a 20 ans, j'ai l'impression que c'est pour nous, tu vois, c'est la guerre.
Après, il y a un film qui manque dans la filmographie de Fincher, et à chaque fois. Non, mais à chaque fois que je revois sa filmographie, il y a un film, je me dis, ah ouais, c'est Fincher qui l'a fait celui-là, c'est Millennium.
Ouais.
Je trouve que ça colle pas avec qui a vu Millennium.
Ouais, il est plutôt cool pour autant.
Il est cool.
C'est beau, mais en fait. Mais
j'ai du mal à imaginer Fincher faire un Millennium, en fait.
Ouais, c'est ça le problème. C'est que vu que l'histoire, elle a déjà été racontée, que ça arrive à un moment où tout le monde a déjà vu les films norvégiens ou suédois, je m'en souviens plus.
Suédois, je crois.
Pour le coup, bah, ça casse un peu le.
Je l'ai vu, mais je m'en rappelle plus trop.
Bah, il y a Daniel Craig qui est cool et tout.
Il est cool, hein, mais c'est pas dingue, mais il est très cool. Et encore une fois, t'as des plans, je sais plus lesquels, mais t'as des plans vraiment super.
Et du coup, quand tu le vois, est-ce que tu te dis, ouais, c'est un Fincher, tu reconnais la patte? Moi, je l'ai pas vu, c'est le seul qui
m'a. Si, ouais, tu reconnais. Ouais. Tu reconnais.
Visuellement, il y a beaucoup de choses, notamment ce genre de scène où, tu sais, il n'y a plus de dialogue. Et uniquement avec la façon dont il met la caméra, tu comprends comme le personnage ce qui est en train de se passer. Mm. Tu vois, il y a un moment où il y a une sorte d'enquête où ils sont tous les deux, enfin, il y a le personnage principal et le personnage principal qui est Daniel Craig, qui sont en train de découvrir un truc, chacun de leur côté. Mm. Et en fait, il n'y a pas de dialogue, c'est uniquement avec la musique et comment c'est filmé que tu comprends qu'ils sont en train de comprendre la même chose en même temps, en fait. Ouais, et toi, tu le comprends en même temps que les gens dans le film. Donc, t'es tellement dedans que tu te dis, waouh, la réelle, ça t'amène dans un truc où tu te dis, waouh, ça, c'est chambé.
Après, je trouve qu'une des forces de David Fincher, c'est de ce pouvoir d'embarquer les spectateurs. Je me souviens, alors, il l'a fait dans Seven, dans The Game aussi, et c'est assez incroyable. Mais moi, je me souviens d'une séance qui m'avait marqué, c'était celle pour Gone Girl. Et j'ai vraiment le souvenir de la salle qui était embarquée dans l'histoire. Ouais. C'est souvent, t'entendais un peu des ouah dans la salle comme ça, genre ouah, tu vois. Et là, il y avait plein de sons comme ça et je sentais qu'il arrivait à capter chacun des membres de la salle. Et il a quand même ce pouvoir et cette force, David Fincher.
C'est de la tension de porc. Bah, Seven, je me suis rematé ce midi, du coup.
Ah, t'as passé un bon midi, toi.
Ça fait longtemps que je l'avais pas vu.
Ça faisait longtemps, ouais.
Okay.
J'ai dû le mater au moins 5-6 fois. Ça faisait longtemps pour autant que je l'avais pas vu.
Et est-ce qu'à chaque nouveau visionnage, tu le découvres d'une façon différente?
Écoute, je commence à de plus en plus, à de moins en moins l'aimer.
Ok.
C'est ça qui est horrible. Je pense que pareil, c'est pas un film à voir plusieurs fois parce qu'en fait, je commence à être irrité par ce qui m'a plu au début. Comme une relation d'amour, tu sais, tu largues quelqu'un pour les raisons qui t'ont fait que tu t'es mis avec la personne.
Comme quoi, par exemple?
Bah, tout le côté étouffant était super plaisant. Et le côté, bah, tu sais, dans chaque scène, t'as une putain de sirène de police en sound design ou un chien qui aboie. Et quand j'ai vu la première fois, j'ai jamais vu une ambiance telle qu'elle reproduite à l'écran et sur toute la longueur du film. En fait, on est en apnée, on ne respire pas pendant tout le film. Et les premières, deuxième, troisième fois, j'étais en mode trop bien et tout. Et là, je l'ai revu, c'était dur.
Ah ouais?
Bah, c'est dur parce que je sais que c'est étouffant et du coup, le fait d'être étouffé par un truc que je sais que c'est étouffant, ça surligne. Donc, je pense que c'est pas un film à revoir 12 fois, tu vois.
Ouais, mais ça n'a pas vieilli.
Voilà, ouais, ça n'a pas vieilli.
Ouais, c'est la question.
Ça n'a pas vieilli.
Au niveau esthétique,
ça pourrait sortir en salle aujourd'hui.
Bien sûr. Non, c'est fou. Il y a des longueurs qui seraient moins acceptées aujourd'hui, je pense. Alors, mais c'est trop fort, hein. Mais des scènes, bah, comme tu dis, où on comprend des choses entre les personnages sans qu'il y ait de dialogue ou qu'il y ait rien. Il n'y a pas quelqu'un qui tend un truc ou rien, juste t'as Morgan Freeman et qui se partagent un bureau et qui s'échangent des affaires et t'as un plan d'une minute vingt où juste ils bougent des trucs et ils regardent des machins. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué de sortir ça au cinéma, mais ça ne vieillit pas du tout.
Moi, j'aime bien ça, parce que tu vois, je trouve que, à cette époque-là, sur ce genre de film, et Fincher, il le fait quand même régulièrement, où il prend pas le public pour un con. Il est pas tout le temps en train de les prendre à la main, tu vois. Et des fois, il y a juste pas de dialogue. Et genre, toi, avec les images, qui sont les mêmes images que l'acteur est en train de calculer, faut que tu comprennes un peu la story, tu vois. Alors que maintenant, on est quand même dans des films où quasi, ils te racontent même tout ce qui se passe à l'écran, tu vois. Alors là, il est en train de prendre un truc. T'as l'impression que c'est genre... et s'il y a pas ça, les gens, ils comprennent plus. J'sais, ah, les gars... c'est quand même pas cool.
Les gens ils textotent pendant qu'ils regardent des films.
Comme dans Tenet, tu veux dire, par exemple.
Je sais pas, j'ai pas vu.
Non, je rigole.
Putain, Tenet.
Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur Seven.
Magnifique.
T'aimes bien les infos croustillantes en général?
J'aime croustiller.
Ouais, t'aimes bien
croustiller.
Figurez-vous que ce film a été écrit par un jeune employé d'une boutique de disques. Il s'appelle Andrew Kevin Walker et à l'époque, il venait tout juste d'emménager à New York, ville qu'il détestait et qui le déprimait. D'où l'ambiance morbide, pluvieuse et glauque dans le film. Il a écrit une ébauche de script dans la boutique alors qu'il s'emmerdait entre deux ventes de vinyles et de CD. C'est plutôt cool quand même.
Cool, très cool.
Incroyable.
Et est-ce qu'il a une grosse carrière après ou il a fait que ça?
Bah après, il a fait un film qui est assez similaire dans la glauquitude qui s'appelle 8mm.
Alvin et Chimka.
Oh putain, c'est encore pire.
Nicolas Cage. Ou avec les sadomaso, les snuff movies.
Machine, mec, le personnage dans ce film. Le méchant, il s'appelle Machine.
Ouais.
Il m'a traumatisé.
C'est vrai qu'il est traumatisé.
Parce qu'à un moment, quand il l'arrête, il lui dit genre, pourquoi tu fais ça? Et il dit.
Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un snuff movie, c'est.
Ouais,
en gros, c'est des gens très riches, en général, qui, pour s'exciter, commandent des films où ils assistent à un véritable meurtre. Et ils se masturbent dessus. Voilà, c'est un peu le concept, en gros.
C'est terrible.
C'est catastrophique.
Non, mais du coup, il écrit des films. Parce que finalement,
c'est marrant, il a fait 7, 8mm. Voilà, après, il a fait un truc avec 9. Il fait un compte à rebours bizarre.
Mais je crois aussi qu'il a été, c'est plutôt pas mal parce qu'il a été ce qu'on appelle script doctor. Donc script doctor, c'est les gens qui arrivent comme ça un peu en catastrophe pour remanier un peu le scénario alors que le film a déjà commencé ou est sur le point de commencer pour The Game. Donc c'est quand même un bon scénariste quand même.
Pas mal.
Et à la base, ils vendaient des vinyles et des CD. Donc
du coup, ils vendent plus du tout de disques.
Non, c'est fini. Ah, okay. Mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, il devait forcément écrire son petit scénario dans la boutique. Et c'est sûr qu'il y a un employé qui lui a fait, ouais, qu'est-ce que tu fais là, ton petit scénario? Il a dû le prendre
de la merde.
Alors que c'est quelqu'un qui a dû le lire et qui a dû faire,
ouais, vite fait. Retourne vendre des disques. On se souvient tous de la fin de ce film extraordinaire. Eh bien, cette fin a failli ne jamais exister. Le studio souhaitait une fin heureuse, sauf que Fincher a en gros fait comprendre au studio qu'il ne ferait pas le film s'il s'avisait à changer le script. Donc, cette fin, on la doit à la perspicacité de Fincher. C'est vrai que cette fin est culte, on en parlait tout à l'heure.
La fin heureuse, ça aurait été vraiment de la merde.
Ça aurait été nul. En gros, la fin heureuse qu'il voulait faire, c'était Morgan Freeman qui tue le méchant. Bon, on ne va pas vraiment spoiler, mais en gros, il ne se passe pas vraiment de drame. Et puis voilà.
Ouais, non, c'est pas ouf.
Pas ouf.
La dernière phrase de Seven, elle est folle. Je sais plus c'était quoi. Bah, je l'ai pas terminé ce midi parce que après j'avais des rendez-vous. Mais c'était la dernière phrase, c'est un truc du style Oscar Wilde dit que le monde est un horrible lieu et qu'il faut essayer d'y être heureux. Et il dit je suis d'accord qu'avec la première partie de cette phrase. Générique est en mode what hein quoi ouais,
pas mal.
Ça existe ça au ciné?
Ah c'est clair.
Trop bien.
Durant une scène de poursuite, Brad Pitt glissa et se blessa sérieusement au bras, raison pour laquelle il a le bras en écharpe puis des bandages durant une partie du film. Du coup, ils ont intégré ce fait hors scénario pour le fond.
Ça rajoute à l'oppression.
Tom Cruise, c'est pour ça que c'est très bien de tourner de manière chronologique.
Ah, c'est clair, c'est ouais, t'as l'air con.
T'as raison de le préciser parce que finalement, pour les scènes qui devaient se passer avant, bah, ils lui ont dit bah, enlève le bandage et souffre en silence en fait, pendant la scène, tout simplement. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Ah oui, il y a une info que j'aime dans le film. Il y a un type qui s'appelle Gene Borkan. Et Gene Borkan, c'est un acteur pas forcément connu, qui fait souvent des rôles de figuration, qui un jour, dans un magazine, lit une petite annonce qui dit « Casting pour figuration dans un grand film hollywoodien ». Et donc, il y va. On lui dit pas que c'est Seven, mais on lui dit « Ton rôle, ce sera juste de poser en slibard, avec du sang sur toi, et puis voilà, on te prend en photo, quoi ». Et en fait, il savait pas que c'était Seven. On lui donne, il est payé $522 pour ça. Et finalement, après, quelques mois plus tard, il apprend que c'est pour jouer dans Seven. Et en gros, vous savez, parfois, il y a des scènes dans les films policiers comme ça où un policier ouvre un dossier et on voit une photo de meurtre, quoi. Et ben, c'était lui en slibard avec du sang comme ça sur le sol, sur le ventre. Et en gros, il a joué dans Seven. Ouais, il a joué ce rôle-là pour $522. Mais il peut dire qu'il a joué dans Seven.
Et quand t'es dans un bar, t'es là, bah, j'ai joué dans Seven, en fait.
Et bah ouais, je suis le cadavre sur la photo.
Il n'a pas joué. C'est pas le terme jouer.
Tu peux dire, il a posé en slip dans Seven.
C'est bon.
Bah, mais moi, j'irais jouer quand même pour séduire.
Bien sûr.
Bien évidemment. C'est Brad Pitt qui est allé acheter lui-même ses vêtements pour son personnage, dont la cravate. Il voulait que son perso ait des goûts un peu cheap. Donc, c'est lui qui allait faire son petit shopping pour les fringues de son personnage.
C'est vrai que c'est cheapos.
Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Denzel Washington refusa le rôle de Brad Pitt avant de regretter publiquement. Stallone refusa également. Quelle erreur de la part de Sylvester Stallone.
C'est bizarre.
Stallone aurait pu jouer à la place de Brad Pitt.
Oh non, je suis pas chaud.
Ouais, de Brad Pitt.
Ça aurait été bizarre.
Stallone à la place de Brad Pitt, chelou. Hein. Non, non, personne n'est chaud autour du plateau.
Pas du
non, on n'est
Denzel
pas
à la rigueur.
François Cluzet aussi.
Il y avait un délire. Mais...
Au sujet de l'actrice Gwyneth Paltrow, Brad Pitt déclara qu'elle était sur le tournage et finalement dans ce film, le seul soleil. Parce que c'est vrai que ce film est tellement glauque que quand il y a les apparitions de Paltrow, finalement. Et d'ailleurs, la scène où ils invitent Morgan Freeman à dîner, finalement, c'est un peu la seule scène heureuse dans le film.
Sauf le métro, mais.
D'où le soleil, ouais, c'est vrai. Et enfin. Très bonne info, durant un temps, c'est Michael Stipe, le leader de REM, qui était envisagé pour jouer le rôle de John Doe, rôle finalement interprété par Kevin Spacey.
Ah, trop bien.
Et c'est vrai qu'il se ressemble un petit peu.
Mais il a le bon physique de...
C'est vrai qu'il a le physique pour le faire, Bon, on peut pas le dire, vraiment. Enfin, si, on l'a dit, en fait. C'est un peu un spoil ce que je viens de faire.
Ah, John Doe, quoi.
Ouais, voilà, John Doe. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines... Première question pour toi, Panayotis, le dernier film que tu as vu au cinéma dans ta mémoire?
Drunk.
Drunk.
Ouais.
Alors, t'as aimé?
Ouais.
Tout le monde a adoré Drunk.
C'est très cool.
Je l'ai pas vu encore.
J'ai pas vu. Ouais, moi aussi, je l'ai pas vu.
Très bien, tu l'as vu.
Ouais.
Non, j'ai pas vu non plus.
C'était bien avant cette espèce de phase où ça se refermait et Covid et moins de liberté et tout, d'avoir une espèce d'ode à la liberté.
Et si je dis pas de bêtises, il a eu le César du meilleur film étranger, là. Drunk.
Ah, j'ai pas suivi.
Je crois. Mérité pour toi, s'il l'a eu? C'est l'info exacte.
Il n'y avait pas grand chose, hein. J'ai l'impression qu'il y avait tellement peu de films et tellement de trucs qu'on a vus. Oui, et oui, c'était cool. C'était vraiment, vraiment cool.
Le dernier film que tu as vu via une plateforme?
La vie d'Adèle hier.
Ouais, première fois que tu le voyais?
Ouais.
Alors?
Moins kiffé qu'un Make to My Love, par exemple.
Ok, tu l'as vu d'un trait?
Ouais.
Ouais.
J'ai trouvé ça, je sais pas, ça m'a moins attrapé.
Ah, tu vois, je trouve ça fou que ce soit Steven Spielberg qui ait poussé pour que ce soit ce film qui obtienne la palme à Cannes. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout le style Spielberg, ouais, tu vois.
Je savais pas du tout que
c'était
lui.
C'est Spielberg qui était président du jury et c'est lui qui a un peu poussé pour que ce soit la vie d'Adèle.
C'est
quand même cool, c'est quand même classe quand c'est Spielberg qui pousse pour que ton film ait la palme. Incroyable. La dernière série que tu as regardée?
House of Cards.
Ouais.
Ouais. Fincher encore.
Vraiment Fincher.
C'est terminé
Fincher.
Cette série ou ça continue encore?
Non, je crois que c'est terminé. Hein.
Mais ça s'est arrêté avec les affres de Kevin Spacey.
Eh non, ils ont fait une saison de plus.
Sans lui.
Ouais. Sans lui.
Ouais.
Mais très cool, ça s'essouffle.
Faut être dans un mood pour regarder. Moi, je me suis jamais lancé, mais je me dis, c'est le genre de série, faut être dans un mood et accepter d'entrer dedans. Quoi.
Moi, la saison, ça commence avec les Russes et tout, je fais pour aller, stop.
Une fois que j'étais rentré dedans, j'étais bien rentré dedans.
Okay.
Et Industry aussi, que j'ai fait en même temps. HBO.
Je connais pas.
J'ai trouvé très très fort.
Ouais.
Très très beau.
Mais à ce qui paraît, dans House of Cards, Robin Wright, qui joue dedans, je crois, à ce qui paraît, est très forte.
De ouf, elle fait flipper.
Ouais.
Je sais pas qui c'est.
Mais si, c'est
Claire Underwood. Ah, d'accord, je sais pas que c'est Robin Wright.
la à l'époque dans
Chili de Santa Barbara.
Exactement.
Et Succession que j'ai fait avant, pardon, j'ai fait avant, mais faut quand même dire, c'est la série qui vient le plus chambouler dernièrement.
Succession. Mais Succession, ça me chauffe. Ouais. Tout le monde me dit que c'est
tout le monde. C'est vraiment bien.
Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai vues dernièrement, mais depuis longtemps.
Ouais, franchement.
Vraiment, vraiment.
En acting, c'est un sacré feu.
C'est trop fort.
La dernière chanson que t'as écoutée?
Si j'ai maté le doc hier de Billie Eilish sur Apple, du coup je me suis réécouté du Billie Eilish.
Ok, un titre en particulier?
J'écoute Xani.
Ok.
De Billie Eilish. Et il y en a, pour des raisons plus personnelles, de voix française qui me berce.
Ouais, comme?
Il y en a.
Ah, ok, d'accord.
Tu connais?
Non, je connais pas.
Regarde. Écoute, juste ça. À quel point c'est beau. Reste, reste avec moi, reste. Voilà. Et ça, après, je pleure et je dors.
C'est bien parce que là, t'es en train de m'épargner du montage. Parce que j'aurais dû la chercher sur YouTube, la télécharger et la mettre.
Voilà, ça, c'est ma vibe en ce moment.
Reste. Le dernier livre que tu as lu?
Je suis en train de le terminer. C'est King Kong Théorie de Despentes.
Ok, ça raconte quoi?
Écoute, ça raconte. Ouais, c'est un peu la déconstruction du patriarcat pour le coup. Ouf. Ça raconte beaucoup. Bah, là, je me suis arrêté au moment où elle a fait un long bloc sur le viol qu'elle a subi quand elle était plus jeune, qu'on lui a fait subir. Et bon bloc. Je me suis arrêté, j'ai fait une petite pause.
Ouais.
Après, j'ai mis la vie d'Adèle.
Ok, j'ai dit, bon. Ouais, okay. Bien
okay. Après, Seven et Smitty, quoi. Yes, nickel.
Cool.
Ouais, juste avant, je venais de terminer Just Kids de Patti Smith.
Okay.
Qui était incroyable et que je veux voir en film tout de suite. Ah, mais attends, non, c'est Mapplethorpe qui a été mis en film, mais j'aimerais voir Just Kids en film.
Okay.
Je te propose de regarder Miss Dubfire ce soir.
Ah bon? Franchement.
Histoire de contrebalancer.
Non, mais j'avais envie de voir. Ah, putain, j'ai maté. C'est toi qui m'as conseillé ça. Et je t'ai détesté à cause de ça. The Fountain d'Aronofsky.
C'est toi qui m'as conseillé, non? C'est pas moi.
Ah bon?
Bah, du coup, tu m'as détesté pour rien. Pour
désolé,
le...
pardon. Mais c'est un peu foufou. Je l'ai maté il y a 3 jours. En plus. J'étais avec un groupe de potes pour un anniversaire. On était genre 6. Non, pas du tout, on était un peu plus, mais Castex, je veux pas qu'il écoute. Au pire, Brad Pitt, il te nique ta race. Donc,
2 ans de plus.
Et franchement, j'ai dit non, mais vas-y, The Fountain, faites-moi confiance. Tout le monde voulait mettre I Love You, Philip Morris. J'étais en mode non, The Fountain et tout.
Pas la même ambiance.
Ah, là,
ah,
c'est clair.
Ah, du coup,
si
c'est-à-dire qu'il a chié sur moi devant tout le monde. Ah, c'est JB qui me l'a proposé, c'est enculé et tout.
J'ai dit le gars de Tabs, vous voyez.
Allez, vous voilà. Je ne t'ai jamais parlé de ce film.
J'étais persuadé. Non, toi, tu m'as conseillé Umberto D.
Ouais.
Qu'il faut que je mate, que j'ai toujours pas maté.
Mais c'était pas un film non plus à mater entre potes pour un anniversaire.
Écoute, ben voilà, j'ai fait The Fountain.
C'est chaud, je te conseille Salaud à mater entre potes. Pasolini.
Nickel. Et Requiem for a Dream.
La dernière BD que tu as lue, est-ce que tu lis des BD ou des mangas?
Très peu, non.
Pas de souvenir d'une BD que tu as lue? Ça va chercher dans l'enfance ou pas?
Ça va chercher, si, j'ai acheté, mais j'ai pas lu encore, Les Sentiments du Prince Charles.
Ok.
Qui apparemment est magnifique. Que je n'ai pas encore lu.
Je connais pas.
Je peux pas dire. Et la dernière que j'ai vraiment adorée, c'est Pilule Bleue, qui a été adaptée d'ailleurs pour Arte, avec Guillaume Gouix, je crois, mais qui était magnifique sur un homme, je crois, qui est en couple et qui est séropo, et toute une discussion avec sa femme, sa copine. Ouais, c'était très beau, très, très beau.
Le dernier objet culturel que tu as acheté?
Des figurines Rick and Morty. Bien grandes.
Ah oui, d'accord.
Ouais, qui sont un peu géniales, et tu peux changer les têtes. Un peu cool.
Genre
que j'ai commandé il y a genre un an et demi.
Genre le duo
là.
Et tout?
Ouais.
Ah, ok, donc c'est des trucs genre Sideshow, Hot Toys, trucs comme ça? Pas du tout, non?
Ah, je sais pas du tout.
Parce qu'en général, quand ça met un an à arriver, c'est qu'il y a de la préparation, c'est genre, c'est pas des trucs en plastoc.
Ah non, c'était un vrai truc bien, okay, bien précis. Et j'ai offert le Morty à quelqu'un. Ça, c'est marrant. J'ai mon Rick et quelqu'un le Morty.
Sympa.
Pas mal.
Un peu marrant.
Et on préfère Rick pour le coup.
De loin. Quelle question.
Et enfin, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur les réseaux? Sur Insta ou sur Twitter, ou alors un compte que t'aimes bien de checker?
Un compte que j'aime bien de checker? Bah écoute, si, Billie Eilish, hier, je me suis fait tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ce docu. Je sais pas si vous l'avez vu.
Ouais, il
est très intéressant parce que je trouve que souvent, ce qui me fait chier avec les docus d'artistes faits par les artistes, bah frère, tu sais très bien qu'il y a de la sélection, quoi. C'est l'équivalent d'aller voir Brian May qui produit Bohemian Rhapsody. T'es en mode, vous avez retiré toutes les histoires qui nous intéressaient. Et Billie Eilish, pour le coup, c'est vraiment, enfin, ça paraît très honnête dans le sens où des fois, il la montre très bitchy, des fois très sûre d'elle, des fois pas du tout sûre, des fois elle chiale, des fois. Et c'est assez beau, en fait. C'est très humain et c'est très, on voit une vraie complexité, tu sens qu'elle a pas du tout voulu des plans où elle est en culotte dans son truc en train de faire de la musique avec son frère, elle se crotte le nez, elle fait ses sons et t'es en mode waouh, c'est fort quoi. Mmh. Et j'ai vraiment adoré ça, du coup j'ai scrollé un peu tout ce qu'elle avait fait parce que je la connais très peu.
Okay. C'est vrai, moi je trouve aussi que le docu il amène un truc complètement différent. Mmh. Pareil, l'artiste, je la connaissais peu, et en vrai, je pense que ça, comme tu dis, c'est hyper honnête, même si à mon avis, c'est calculé d'être honnête, mais le fait de présenter une artiste comme ça et que c'est la plus grosse star actuelle, c'est cool pour la musique aussi en général, parce que ça amène d'autres profils.
Ça détend un peu, tu vois, le côté très, il faut faire ça, faut sourire, faut lycée, montrer que le matin, on te maquille, on fait genre une scène où on te réveille. Elle, vraiment, il y a des scènes où elle se réveille, elle a des caca d'yeux.
Ouais.
Elle fait des grandes interviews qui va être vues par des millions de gens, c'est un peu gaulerie.
Il y a plein de problèmes avec son corps. Pour ceux que ça chauffe, c'est trouvable où ce
document? Sur Apple. Mais Apple, après, bon, faut être abonné à Apple TV+. Mais sinon,
on connaît ton passif. Ce podcast est désormais terminé. Panayotis, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu?
Aucune. Covid.
Oui, parce que du coup, il y avait de la scène avant le Covid.
J'ai un truc un peu marrant pour vous. Est-ce que j'ai le droit de le dire contractuellement? Je crois que oui.
Oui.
Mais j'ai écrit un épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie pour France 2.
Ah ouais cool. Ça tue.
Comment c'est arrivé ce truc?
Alors, on travaille sur une série avec des amis du stand-up, Farid, Jason Brokers, etc. Et ça fait quelques temps. Et en fait, on a une directrice d'écriture qui écrit pour plein de choses, qui est trop trop forte, et qui écrit vraiment des gros longs métrages en France, des grosses séries, des trucs.
Qui s'appelle
Béatrice Fournera,
okay.
Qui était la productrice de Nulle Part Ailleurs à l'époque. Et donc, elle connaît tout sur l'humour, sur... Et je sais pas pourquoi, à un moment, il y a eu cette proposition et elle m'a dit, on travaille bien ensemble et on l'écrit à deux. Et franchement, à la base, moi, j'étais en mode, je sais pas si j'ai envie, tu vois. Et je me suis dit, y a rien à foutre, c'est Covid, c'est trop gaulerie. Et du coup, on tue des gens, on se fait des réunions, on tue des gens.
Parce qu'en plus, c'est en mode sérieux, cette série.
Alors non, c'est très comique, là. La nouvelle saison est très, très comique. C'est pour ça qu'ils étaient très heureux de nous prendre, nous qui écrivons plutôt des blagues. Et c'est en fait, c'est archi marrant de créer des persos, de les tuer, de créer des mobiles, des machins.
Il y a une ambiance Cluedo, c'est ça?
De ouf. Ouais. On fait vraiment, pour le coup, une enquête de chez moi. On pose des post-it partout.
C'est drôle. C'est
très, très, très marrant. Et en plus, il y a une grande liberté. Parce que c'est une série qu'elle a depuis tellement longtemps que France 2 fait confiance à la productrice de cette série. Donc, en fait, c'est assez cool. T'as pas de validation de la chaîne, de trucs. Tu vois, c'est très. Et c'est au final très, très marrant.
Attends, c'est marrant parce que ça existe depuis quand c'est une série, hein.
Je crois que c'est la troisième saison. Ça doit faire 5-6 ans que c'est là. Mais. Bien implanté, quoi. Ça fait des gros scores et c'est assez gaulerie. Et c'est 90 minutes, donc en vrai, c'est écrire un long métrage gaulerie.
C'est un Joséphine Langardien, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, mais c'est très marrant.
C'est drôle.
C'est très, très marrant à faire. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie, tu vois. Et c'est très, très gaulerie. Voilà.
Très bien.
Ça, c'est l'actu du moment, qui n'est pas une vraie actu, parce que c'est écrire un truc dans lequel une fois que ce sera livré et envoyé par mail, je serai plus là, quoi. Mais
c'est une actu.
Un peu gaulerie.
C'est donc la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, si vous ne savez pas quoi regarder les jours prochains, on vous conseille d'utiliser l'outil Cinematcher sur le site de We Love Cinema. Très bon moyen de choper des idées de films. Merci à Tim et Ninon qui nous ont aidés à enregistrer ce podcast. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour se pencher sur un nouveau film. Bye tout le monde. Ciao.
Salut.
Au revoir.